Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, une émission normalement détachée de l'actualité qui ne prend pas parti, seulement voilà, aujourd'hui trop c'est trop. Avec le confinement puis le couvre-feu, ça fait maintenant près de 3 mois que les restaurants sont fermés et c'est malheureusement parti pour durer. Et comme Stéphane Bern ne sait même pas faire cuire un œuf, c'est la caca, c'est la cata.
C'est la catastrophe.
Et oui, bonjour Stéphane, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est vrai que c'est dur. Ouais. On pense évidemment à tous les restaurateurs qui s'impatientent. Vous aussi, je sais que vous souffrez beaucoup,
et
Mathieu.
Et comment avec Olivier Pouls, il nous arrive même parfois d'oublier que les restos sont fermés. Alors on digresse, on fantasme comme l'autre jour en antenne.
Ça me manque, moi, les restos, là. J'irais bien faire un resto.
Ah oui.
Putain, vraiment, on est mort de bouffer.
Tu vois, là, tout à l'heure, d'ici une bonne heure, pour aller casser la croûte généreusement, tu vois, à ta baie dans une bonne ambiance.
Bah oui, mais on peut pas.
Non.
Et non, et non, et non. C'est pourquoi, en attendant la réouverture de nos chers restos, on a décidé de vous proposer une spéciale chef.
Mieux encore, Mathieu. Mieux. Aujourd'hui, on réunit les chefs des chefs. Avec un invité spécial cet après-midi, Guillaume Gomez, chef cuisinier de l'Élysée qui publie À la table des présidents, eh oui, un superbe livre au Cherche Midi, même si vous c'est plus dans la cuisine que vous passez du temps, hein, parce que c'est vrai, hein. Bonjour Guillaume, c'est sympa d'être avec nous.
Bonjour, merci de votre invitation.
Mais déjà vous avez le temps d'être avec nous, là tout est prêt pour le dîner
déjeuner
ce soir.
Oui, oui, à 4h vous savez tout est prêt.
Évidemment. Avec vous cher Guillaume, on va remonter le temps à la rencontre de vos alter ego de l'histoire, on peut le dire, ils ont été chefs des chefs, eux aussi.
Stéphane. Oui, lui a été le roi des chefs et le chef des rois. Je vais vous raconter l'histoire d'Antonin Carême, ou quand la gastronomie se met au service de la diplomatie. Eh ben, c'est vrai que tout se décide en France autour d'une table, on le sait. Puis, celle tout aussi dingue d'un autre chef, Pierre Cubat, un Français resté célèbre pour avoir œuvré à la table des tsars de Russie. Quant à vous, Mathieu, il vous reviendra de l'honneur et le plaisir de brosser le portrait de notre invité Guillaume Gomez. Vous avez remarqué quand même qu'il était assez costaud.
Oui, mais j'ai repéré la sortie de secours la plus proche. Au sommaire, également cet après-midi, Stéphane, elle n'est clairement pas l'ambassadrice de la nouvelle cuisine.
Oh, mais ce n'est j'ai la blanquette.
Bonjour Clémentine Portier.
Oh
elle nous entraîne avec gourmandise dans l'intimité des grandes demandes.
Oui, d'ailleurs avec gourmandise, parce que j'espère bien qu'en parlant d'Antonin Carême, Stéphane, vous qui êtes un spécialiste ses dernières paroles. Est-ce que vous savez quels furent ses derniers mots?
Oui, hein, c'est cuit.
Non, pas loin. Il a dit, il faut secouer la casserole.
Ah oui,
c'est quand même magnifique pour un grand chef.
Alors, il voulait parler du manche. Mais...
voilà, c'est ça ma vie. Alors, le fumet, l'odeur, l'arôme, les fluves, le bouquet, voici des mots qui appartiennent à l'univers de la cuisine, bien sûr. Mais ils appartiennent aussi au registre de la parfumerie. Alors, l'odeur, quoi de plus intime? De quoi affoler nos sens et nos papilles? Mais au fait, dirait mon copain David Castello-Lopez, depuis quand se parfume-t-on? Et c'est ce que je vais vous raconter tout à l'heure.
Formidable. Justement, David Castello-Lopez est à vos côtés. Aujourd'hui, c'est David Castello-Lopez qui nous parle de sa spécialité. Enfin, celle de pas la sienne, mais du pays qu'il représente un peu ici, le Portugal.
Si, ça peut bien. Oui. Exatamente, hoje vamos falar do pastel de nata.
Ah,
é mais conhecido em Portugal.
Il va parler aujourd'hui du pastel de nata, qui est une chose merveilleuse, il faut le dire. Un flan.
Exactement.
Il est notre spécialiste de la bonne chair, notre expert culinaire. Il va nous accompagner lui aussi durant toute l'émission. C'est Olivier Pouls.
Eh bien, bonjour les amis.
Bonjour.
Et je vous parlerai, moi, ben, puisqu'on a l'honneur d'avoir l'un des chefs à notre table, eh bien d'un plat qui a beaucoup fait parler de lui grâce à un président, Jacques Chirac, qui un peu involontairement a donné un coup de projecteur sur la
légende,
tête
ça,
de veau, sauce gribiche.
Le pauvre, j'imagine que partout où il allait,
on lui donnait légendairement la tête de veau.
Malheureusement, il en a mangé, je pense, un peu plus qu'il ne l'aurait souhaité. Mais
vous je vous donnerai quand même la recette.
En tout cas, ça conserve bien, puisqu'il est quand même décédé à un âge tout à fait respectable.
Vive la tête de veau. Enfin, entre la poire et le fromage, nous jouerons Born to be alive, notre impitoyable quiz historique aura forcément aujourd'hui une saveur particulière. Stéphane sera-t-il meilleur en histoire de la gastronomie qu'en histoire tout court? S'y connaît-il un peu en cuisine?
J'ai fait la pub des chocolats Lanvin juste après Salvador Dali.
Pas sûr qu'il faille tout miser là-dessus, Stéphane. Hein, en attendant, découvrons...
Mais vous allez chercher les...
Ah bah, c'est pas moi qui ai fait des pubs pour
aujourd'hui,
mes impôts.
Hein, aujourd'hui, vous cuisinez avec les bas morceaux. J'ai compris.
Et c'est pas fini. En attendant, découvrons notre premier personnage du jour, un chef légendaire. Stéphane Bern nous raconte l'histoire d'Antonin Carême.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Eh bien voilà Mathieu, encore un personnage de l'histoire qui a su défier les lois du destin, Antonin Carême. Ce cuisinier qui s'est illustré au service des grands noms du 19e siècle n'était pourtant pas né, contrairement à vous, avec une cuillère en argent dans la bouche. On pourrait même dire que son histoire commence comme celle du petit Poucet. Le jeune Marie-Antoine Carême, c'est son nom de baptême, grandit dans des baraquements de fortune tout près des chantiers parisiens, où son père gagne quelques pièces. Sauf que ce dernier préfère dépenser ses maigres sous au cabaret plutôt que d'acheter une miche de pain à sa tribu. Alors voilà qu'un soir, le pauvre Antonin est abandonné. Nous sommes alors en pleine Révolution française. Imaginez un peu ce garçonnet qui erre dans Paris avec son petit baluchon. Heureusement, avant que la misère et la faim n'emportent le jeune Carême, un brave gargotier l'embauche contre gîte et couvert, et il ne le regrette pas. C'est qu'il travaille bien le ptio. Si bien qu'il finit par entrer au service de Sylvain Bailly, l'un des pâtissiers les plus en vogue de Paris. Enfin, l'heure de la revanche a sonné pour le gamin des rues. Armé de son rouleau à pâtisserie, voilà qu'il excelle dans la réalisation des pâtes feuilletées. Ses doigts d'artiste confectionnent des tourtes aux groseilles, des pitiviers aux amandes ou des madeleines savoureuses. Bref, Carême a trouvé sa vocation. En plus de cela, le jeune homme a la chance d'avoir atterri dans le quartier du Palais Royal. Il n'a qu'à traverser la rue pour rejoindre la Bibliothèque Nationale. Et Carême, qui est avide de connaissances, n'hésite pas à s'y rendre entre deux cuissons. Bon, puisqu'Antonin n'a pas eu la chance de recevoir les bases d'une éducation solide, la lecture des vieux grimoires s'avère pour lui quelque peu laborieuse. Mais il est attentif aux images. Toutes ces estampes de bâtiments antiques le fascinent tellement qu'il renfile illico son tablier pour les reproduire dans les moindres détails. Et voilà que devant la vitrine de Bailly, le tout Paris salive en admirant des édifices pâtissiers, des pagodes chinoises en pâte d'amande, des ruines de Palmyre en biscuit ou encore des colonnes corinthiennes en sucre. Et ces incroyables pièces montées n'atterrissent pas dans n'importe quelle assiette. On les retrouve aux Tuileries, à la table du premier consul. Et qui est le premier consul, Mathieu ?
Napoléon.
Napoléon Bonaparte, bien sûr.
Mais je suis bon en histoire.
Ah oui, enfin, bravo.
Je suis pas là pour rien.
Bah, ça finit par rentrer. Et oui, rappelez-vous, le 18 Brumaire de l'an 8, soit le 9 novembre 1799, le général Bonaparte arrive au pouvoir par un coup d'État. C'en est fini de la Révolution, fini des échecs du Directoire aussi, désormais place au régime du consulat. L'un des artisans de cette prise de pouvoir forcée, c'est Talleyrand, qu'on appelle, et c'était pas très gentil, le diable boiteux. Aux côtés de Bonaparte, monsieur de Talleyrand a un rôle stratégique, le voilà qui endosse la casquette difficile de ministre des Relations extérieures. Et n'oublions pas qu'à l'époque, la paix entre les puissances européennes n'est pas vraiment à l'ordre du jour. On en est encore à vouloir grappiller du territoire chez les voisins. Toujours est-il que Talleyrand a une façon bien à lui de mener à bien ses projets politiques. Devant le magnifique hôtel de Gallifet où il a posé ses valises, on assiste à un balai incessant de carrosses à 8 chevaux. C'est que plusieurs fois par semaine, on met les petits plats dans les grands et on déroule le tapis rouge à des ambassadeurs par dizaines. Et pour charmer tout ce beau monde, Talleyrand a une arme de séduction massive. C'est Antonin Carême, évidemment. À force de talent, notre cuisinier a fini par intégrer les offices les plus stratégiques du pays. Et vous allez voir que de la prouesse gastronomique à l'accord diplomatique, il n'y a qu'un pas. Oui, pour endormir un vieux lord anglais, quoi de mieux que de ravir ses papilles avec une excellente croustade de truffe. Et pour faire avaler n'importe quelle idée à un grand duc russe, pourquoi sous-estimer la force de persuasion de délicieuses croquettes de homard aux champignons ? Vous l'aurez compris, Carême et Talleyrand forment une équipe redoutable. Quand l'un régale, l'autre manipule. Et tout cela dure près de 15 ans. En 1815, les deux Lurons récidivent pour un ultime coup de maître. À ce moment-là, la France doit sauver les meubles. Je vous parlais à l'instant du consulat, mais rappelons qu'un coup d'État n'a pas suffi à Napoléon et qu'en 1804, il a remis la couronne au goût du jour en proclamant l'Empire. Sauf que 10 ans plus tard, sa folie des grandeurs le conduit en exil sur l'île de Sainte-Hélène et sans billet de retour. Mais Talleyrand, qu'on osera qualifier d'opportuniste, eh bien Talleyrand, lui, est toujours là où il a servi tous les régimes. Hein. Il s'est servi de tous. On dira même de lui que le seul souverain qu'il n'est pas dupé, c'est le fromage de Brie. Mais, trêve de plaisanterie, Talleyrand doit se rendre à Vienne pour représenter le nouveau roi Louis XVIII, le retour des Bourbons, dans un congrès qui s'annonce épineux. Et pour enfumer tout le monde, il n'a pas besoin d'instructions écrites ou d'ambassadeurs bavards, non, comme toujours, il a besoin des marmites de carême. Et encore une fois, les petits plats mitonnés par le maître queue font des merveilles et scellent des accords. Sauf qu'en réalité, Carême est resté à Paris, trop occupé à écrire son livre de pâtisserie, dans lequel, pour la première fois, il livre ses secrets de fabrication, les ingrédients, les cuissons, les tours de main, avec l'objectif avoué d'aider les jeunes pâtissiers et leur faire gagner du temps. Quoi qu'il en soit, les accords ont été signés, et ses exploits culinaires vaudront à Carême une proposition de travail en or. Elle vient du tsar Alexandre Ier, qui lui propose ni plus ni moins que d'intégrer les cuisines impériales de Saint-Pétersbourg. Mais travailler pour les grands noms du monde, ce n'est pas tous les jours facile, vous allez le voir.
Guillaume Goyen, on parle d'Antonin Carême, Stéphane nous parle d'Antonin Carême, et à la fin de la première partie de votre récit, vous dites qu'il a été quelque part démarché par la Russie pour devenir cuisinier à la cour du tsar. Est-ce que vous-même, dans vos métiers aujourd'hui, est-ce que quand on est chef de l'Élysée, on est courtisé par d'autres pays? Est-ce que, par exemple, Donald Trump aurait pu vous appeler pour lui faire des hamburgers, ou est-ce que ça marche plus comme ça?
Non, ça ne marche pas comme ça. On connaît, grâce au club de chefs des chefs, tous les chefs des chefs d'État, et non, chacun reste à sa place. Et vous savez, autant à cette époque et dans les années qui ont suivi, grâce à Antonin Carême, notamment, il y avait bon nombre de chefs français à disposition des chefs d'État. Autant aujourd'hui, ça ne se fait plus, et le président américain a une chef américaine
qui lui fait des bons burgers et des bons hot dogs
et ainsi de suite. Alors qu'encore très récemment, jusqu'à il y a 50 ou 60 ans, il y avait le chef de la reine d'Angleterre était français, le chef de la Maison Blanche était français, enfin était suisse.
Et on est revenu à une sorte de nationalisme gastronomique, c'est par nationalité maintenant.
Chaque pays est fier de sa gastronomie et il a raison.
Alors Stéphane, vous continuez de nous raconter l'incroyable destin du chef cuisinier Antonin Carême, qui, coiffé de sa belle toque, s'est évertué à nourrir en concoctant des plats cuisinés, pas congelés, c'est important de le préciser, aux tout-puissants de son époque et leurs invités.
Bien sûr, et puis je le rappelais quand même à l'instant, c'est grâce à lui qu'on a sauvé les meubles au congrès de Vienne en 1815, et que la France a pu s'en sortir. Guillaume citait cette phrase célèbre.
Donnez-moi de bons cuisiniers, je vous donnerai de bons traités, de Talleyrand.
Vous lisiez coiffé de sa belle toque, vous avez raison, c'est lui qui a inventé la toque.
Exactement.
C'est Antonin Carême qui l'a inventé.
J'aime bien dire des choses à réaliser que je connais des choses
comme un enfant.
Comme Monsieur Jourdain.
Oui, Stéphane. Comme Monsieur Jourdain, qui parle en prose sans le savoir. Je vous disais, Mathieu, donc, que travailler pour les puissants, c'est pas tous les jours chose facile. Antonin Carême en fait la mère expérience quand, après le tsar Alexandre Ier, il est embauché par une amie de Guillaume Gomez, puisque elle a vécu à l'Élysée, c'est Caroline Murat, la sœur de Napoléon Ier. Caroline adore organiser des soupers extraordinaires dans son nouveau château de Neuilly. Un jour de 1804, Carême reçoit donc une commande impressionnante. 8 pièces montées monumentales, des vols au vent par dizaines, autant de pâtés chauds et bien d'autres mets encore. Cette chère Caroline Murat est fort aimable de lui accorder sa confiance, mais elle aurait tout de même pu lui offrir une cuisine digne de ce nom. Alors qu'il a un nombre incalculable de mets à préparer, l'office est beaucoup trop étroit. Le voilà forcé à cuisiner à 5 km du château, et alors qu'il parvient non sans peine à transporter ses pièces montées, Carême se rend compte qu'on a mis à sa disposition un four minuscule qui, en plus, n'a pas servi depuis plusieurs années. Évidemment, elle savait même pas où était la cuisine. Ça se demandait si on se moque pas de lui. Pourtant, pendant 3 jours et 3 nuits, Carême va travailler sans relâche pour satisfaire la famille impériale. Et oui, rien n'est trop beau pour l'empereur ou pour sa famille, tout comme pour le roi Soleil avant lui, est persuadé que sa gloire se mesure au faste déployé par sa cour. Si la cuisine de Carême a contribué au rayonnement de la France, on pourra dire que ce chef de bouche nomade n'est fidèle qu'à ses casseroles. Antonin peut se targuer d'être une star des fourneaux, car toutes les têtes couronnées d'Europe se l'arrachent. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le roi des chefs et le chef des rois. À Londres, par exemple, sa cuisine diététique vient à bout des crises de goutte du prince de Galles. Pour remettre sur pied le futur George IV, il mène une petite révolution. Dans les cuisines royales, exit les ragoûts de rognon et stop au roast beef, place au potage de légumes et à l'agneau sauce menthe. Delicious. Voilà que pour la première fois de sa vie, plus le prince de Galles mange, mieux il se porte. Alors, si, tout comme moi, cette histoire vous a mis l'eau à la bouche, je vous invite dès maintenant à revêtir vos tabliers pour faire revivre la cuisine de l'illustre Carême.
Europe 1, historiquement vôtre.
Ouais, bah alors l'agneau sauce menthe, ça sera quand même sans moi. On parle d'Antonin Carême avec notre invité spécial cet après-midi, l'autre chef du Palais de l'Élysée, le chef de cuisine du président de la République française et meilleur ouvrier de France, Guillaume Gomez, qui publie « À la table des présidents ». Et lui aussi est autour de la table, pas des présidents mais la nôtre, plus modestement, Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique. Dites-moi Guillaume Gomez, quel est le plat signature, comme on dit dans Top Chef, d'Antonin Carême? Il avait une spécialité qui a perduré, qu'on peut retrouver aujourd'hui, ou bien ces plats sont tombés quand même en désuétude?
On lui doit énormément de choses. On l'a dit, l'hygiène en cuisine, la toque. Et côté cuisine, c'est notamment, on dit que c'est lui qui a inventé le vol au vent, les croustades, toutes ces croûtes.
Ah oui.
Tous ces plats-là, en pâte feuilletée, on lui doit parce que ça date de cette époque où l'on venait poser les plats sur la table, où les gens se servaient directement dans les plats.
Oui, il faut savoir qu'à l'époque, c'est le service à la française qui prévaut. Expliquez. Et non pas le service à la française.
On met tout sur la table.
Exactement, vous avez des séquençages. Donc on commence par les pièces montées, donc les pâtes feuilletées, les tourtes, les vols au vent, etc. Après, on va avoir un service avec les poissons, et puis on va avoir les rots. Mais il faut savoir qu'il y a un nombre de plats astronomiques qui sont posés sur la table en même temps. Et donc ça demande énormément de personnel, parce qu'on va vous découper devant vous les volailles, les parts de tartes, et ceci et cela. Et puis après, après Antonin Carême, justement, arrive ce qu'on appelle le service à la russe. Qui est celui qu'on a aujourd'hui.
Ah oui.
Ce fameux service où arrivent les assiettes avec tout déjà prédécoupé dedans.
Ou les plats, c'est l'anglais. Service à la russe, c'est au guéridon. Et ce qu'on connaît aujourd'hui sous l'appellation service donc à l'assiette, c'est ce qu'on appelle le service à l'anglaise, qui peut se faire également au plat. C'est-à-dire que le service à l'anglaise, c'est le maître d'hôtel, le butler, qui vous sert. Voilà. Et le service à la française, c'est vous qui vous servez.
Donc, que le plat soit posé sur la table. C'est le service à la Daumont, où on vous met un plat entre deux personnes, et les deux personnes peuvent se servir.
C'est vous avez su rester quelqu'un de simple, malgré
non, mais
votre
je le dis, mais attendez, on est là à la table.
C'est service à la Daumont, s'il vous plaît.
Excusez-moi, mais on est à la table des présidents et des rois. Autant raconter comment ça se faisait, même si on ne le fait plus aujourd'hui. C'est important de le savoir. Ce qui est important de le rappeler, peut-être Guillaume Gomez, c'est qu'Antonin Carême était d'abord un pâtissier. Aujourd'hui, où on est pâtissier, où on est cuisinier.
Il y a une frontière.
Cette frontière, certains veulent peut-être l'entretenir. Mais c'est vrai que tous les cuisiniers commencent par faire aussi de la pâtisserie. Au CAP Cuisine, vous avez de la pâtisserie. Alors, pas de la pâtisserie comme on peut l'entendre d'un grand chef pâtissier, mais vous avez les bases de pâtisserie. Et les bons pâtissiers, vous savez, maîtrisent aussi la cuisine, parce que c'est là où on va apprendre aussi le goût, c'est là où on va apprendre les accords, c'est là où on va apprendre plein de choses. Et le pâtissier de l'époque, il faut bien se remettre dans cette époque, au début.
Au 19e.
Voilà, 18e, 19e, quand la pâtisserie commence à émerger. Quand vous alliez dans les pâtisseries, il y avait en fait très peu de gâteaux, comme on peut l'entendre. C'est beaucoup de choses salées. Les pâtissiers font beaucoup de choses salées, notamment tous ces fameux pâtés et tout ça. Et pour ajouter un petit mot sur Antonin Carême et l'histoire qui me lie à lui, je ne sais pas si vous le savez, mais quand le tsar essaye de le débaucher, ce n'est pas au congrès de Vienne, c'est au palais de l'Élysée, qui à l'époque ne s'appelle pas le palais de l'Élysée, mais quand Paris est occupé, quand la France est occupée, Antonin Carême se retrouve rue du Faubourg Saint-Honoré, ce qui était l'hôtel d'Evreux, au service du tsar pendant presque un an, et c'est là où le tsar ensuite lui propose de le suivre à Saint-Pétersbourg.
Donc des fois, le soir, vous a précédé,
les cuisines fermées. J'entends la voix d'Antonin Carême.
Ah oui, vous entendez des voix. Bon, ça vient. C'est peut-être la voix qu'on entend le plus.
Il a également été au service d'un grand cuisinier célèbre qui s'appelait Laguipierre. Il a créé d'ailleurs la sole et le turbo Laguipierre, Antonin Carême, son hommage. Et Laguipierre a été au service, vous l'avez dit, de Murat.
Guillaume Gomez, comment on entre dans les cuisines de l'Élysée? Vous aviez 19 ans? Comment, à 19 ans, on se retrouve à l'Élysée?
Par
la grande porte ou par la petite porte? Comment on entre là?
Par les portes, parce que pour arriver en cuisine, il faut en passer plusieurs. Stéphane, qui connaît bien le palais, le sait. Je suis rentré à l'Élysée à une époque un peu lointaine pour les plus jeunes de vos auditeurs, pour faire ce qu'on appelait à l'époque le service national. Donc j'ai été appelé sous les drapeaux en juin 97. Je travaillais chez un chef étoilé Michelin aux Invalides, Jacques Le Divelec, qui entretenait de bonnes relations avec le palais de l'Élysée. Il m'a proposé, pour aller faire mon service militaire à 19 ans, d'entrer au palais de l'Élysée. J'aurais dû y rentrer en fait un petit peu plus tôt, mais comme il n'y avait pas de place, j'ai attendu quelques mois avant mon incorporation et je suis rentré au début pour seulement un an pour faire mon service national, et j'y suis resté.
On dit que je racontais que pour Antonin Carême, c'était pas facile de servir des chefs d'État. Qu'est-ce qui est le plus compliqué quand on est le chef des cuisines de l'Élysée? D'abord, on cuisine tous les jours, évidemment, mais comme dans n'importe quel restaurant, parce que le président reçoit.
Bah, sauf que la carte change plus souvent que dans un restaurant normal, non?
Alors, il y a pas de carte.
Il y a pas de carte.
La différence, la grande différence, je pense qu'il faut savoir s'adapter parce que, nous, on change de convive très souvent. Le président de la République peut aussi changer tous les 5 ans. Donc, c'est à nous de nous adapter, non pas le contraire. Quand vous êtes un client et que vous allez dans un restaurant, vous allez pour déguster la cuisine d'un chef. Les gens qui viennent au Palais de l'Élysée ne viennent pas déguster ma cuisine. Ils viennent parce qu'ils sont reçus au Palais de l'Élysée. Donc, c'est vraiment à nous de nous adapter. On fait pas forcément la cuisine qu'on souhaite. On fait la cuisine qu'on nous demande et la cuisine que l'on attend de nous. Et vous pensez bien qu'entre les 4 présidents que j'ai servi, je n'ai pas fait la même cuisine sous chaque mandat parce qu'il a fallu à chaque fois s'adapter.
Mais sous Sarkozy, il n'y avait pas de fromage.
Pas de fromage.
C'est pas tout à fait vrai. Il y avait pas de fromage. C'est vrai que lorsque il y avait des déjeuners ou des dîners de travail, c'était vraiment raccourci. On enlevait le fromage, mais on a quand même servi du fromage à l'époque de Nicolas Sarkozy.
Qui vous commande les menus? Par exemple, je sais que dans certaines cours royales, ce sont les souveraines qui le matin vont voir le chef des cuisines du palais chez vos confrères. Donc, est-ce que ça c'est la première dame?
Alors, il y a des différences en fonction des mandatures, bien évidemment, et en fonction de l'organisation du travail du palais de l'Élysée. Mais c'est très souvent les premières dames. En effet, j'ai un rendez-vous hebdomadaire avec les premières dames, enfin avec ce que j'appelle dans le livre justement mes patronnes, avec la première dame, et ensuite c'est le président qui choisit ce qu'il mange. Les menus sont validés.
Quand Stéphane Bern vient manger, il passe un coup de fil.
Il me fait un très très bon gâteau au chocolat. Il sait que j'aime le chocolat.
Non, mais ce qui est bien, que si ça fait 23 ans que je suis en place, c'est parce que je réserve justement toutes ces confidentialités.
Il est l'homme le plus secret de l'Élysée.
De manière globale, sans citer de nom, est-ce que vous notez ce qui révulse Olivier Pouls, une tendance au sans gluten, de plus en plus de végétariens stricts? Est-ce que vous avez des desiderata comme ça de chefs d'État ou d'autres de l'Élysée qui vous disent attention, moi pas de gluten, moi je suis cœliaque, moi je ceci, cela. Est-ce vous avez noté un changement?
Vous pourrez le découvrir à travers ces pages, justement. La cuisine de l'Élysée a évolué, mais parce que la société a évolué et que les choses ont changé. Et même si la cuisine de l'Élysée est ancrée dans un palais historique et marque l'histoire, elle est à l'image de la société. Donc bien évidemment, ce que vivent mes confrères dans les restaurants avec les régimes spéciaux, les sans gluten, mais on prend pas ça comme une contrainte, on prend ça comme un cahier des charges, si vous voulez. Oui. Puis suite à ça, vous savez, nous, la cuisine, elle se fait pas pour soi, elle se fait pour l'autre. Donc à partir du moment où vous souhaitez faire plaisir, vous vous adaptez à ce que l'on vous demande.
Là, Stéphane, dans le livre, il y a des menus qui sont imprimés. Oui. Et il y a un très très beau déjeuner auquel vous avez dû participer. Déjeuner offert en l'honneur de son Excellence Monsieur Saddam Hussein, vice-président du Conseil de commandement de la Révolution d'Irak, par Valérie Giscard d'Estaing. Vous y étiez?
Non.
9 septembre 75. Ça devait être très sympa.
J'étais beaucoup
là.
Trop jeune, voyez-vous. Je savais à peine tenir mes couverts. En revanche, je me souviens d'un dîner qu'a organisé Guillaume Gomez à la demande de François Hollande pour la reine d'Angleterre. Et ce qui était formidable, c'est que on continue à faire de la diplomatie à table. C'est que l'agneau qui a été servi était un agneau spécial.
L'agneau de Sisteron, tout à fait. Hein? Le foie gras,
etc. Vous aviez choisi, tous les mets répondaient, disons, à ce qui pouvait faire plaisir à la reine Elisabeth.
Alors, pour cette occasion, vous parlez de ce fameux repas pour la reine d'Angleterre. On en a un petit peu parlé dans les médias parce qu'il y avait eu pas un scandale, mais c'est vrai qu'en Angleterre, il avait fait la une des tabloïds parce que la reine avait choisi de manger du foie gras et que le prince s'était prononcé contre, et c'est la seule fois où un chef d'État a choisi son menu. Normalement, comment est-ce que ça se passe? On reçoit des interdits alimentaires, les desiderata, qu'ils soient d'ordre allergène, religieux ou de goût. En fonction de ça, je vais proposer un menu au président de la République et le président va choisir. Et comme à l'époque, l'ambassade de France à Londres nous alerte sur le sujet du foie gras, et j'avais proposé du foie gras, le président décide de faire choisir via l'ambassade de Grande-Bretagne en France à la reine d'Angleterre son menu, et c'est la reine qui a choisi le foie gras. Et vous parlez de l'agneau de Sisteron, ça permet, c'est aussi ce qu'explique ce livre, de mettre en avant les appellations, les régions, les terroirs, les territoires, et à travers ça, bien sûr, celles et ceux qui font cette gastronomie, donc tous nos producteurs, tous nos éleveurs, et l'agneau de Sisteron, qui était une très belle appellation, mais qui tombait un petit peu en désuétude, et nos producteurs étaient vraiment en déshérence. Ça a permis de relancer les exportations, notamment en Grande-Bretagne, et même en France. Les chefs se sont dit, tiens, oui, c'est vrai, l'agneau de Sisteron, c'était bien, pourquoi est-ce que j'en fais plus?
Et puis, j'en profite pour dire que dans ce livre, il n'y a pas que des recettes, ni des coulisses de l'Élysée. À la table des présidents, c'est incroyablement riche, c'est inspiré de menus historiques issus de votre collection personnelle, d'ailleurs, et de 1175 menus offerts en 2018 au Fonds gastronomique de la Bibliothèque nationale de France, c'est à Dijon. Une recette qui transmet comme ça
disponible gratuitement sur Gallica, qui est un fonds qui est vraiment très riche. Vous pouvez aller les consulter. Et c'est vrai que j'avais tous ces menus chez moi dans des cartons et je suis pas un collectionneur. Donc du coup, je me suis dit à quoi ça sert de les garder comme ça. Et ça fait, vous savez, c'est un menu, c'est une photo d'un pan d'histoire. Ça raconte quelque chose. Et je pensais que c'était intéressant pour les plus jeunes notamment qui s'intéressent à la gastronomie, mais également pour toutes celles et ceux qui veulent s'intéresser à l'histoire de France, de pouvoir les consulter.
Puis ce sont des moments de convivialité, voilà. Des moments qui restent gravés. Et c'est vrai que quand vous allez, Mathieu, déjeuner ou dîner à l'Élysée,
ça m'arrive rarement, Stéphane.
Vous avez un menu. Il y a un menu pour chaque convive.
On repart avec le menu.
Oui, vous pouvez le faire signer si vous voulez.
Et en feuilletant ce livre, ça vous donnera peut-être des idées pour m'inviter le week-end prochain.
Oui, et effectivement, Olivier. Oui.
Restez avec nous. Et surtout, on a la chance cet après-midi d'être avec Guillaume Gomez, le chef du chef de d'État français.
Compliqué à dire, mais je crois qu'on a compris l'idée.
Oui, c'est un club, hein, le chef des chefs. Vous êtes mon chef.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Notre invité du jour, Guillaume Gomez, le chef cuisinier de l'Élysée, garde parfois le secret de ses recettes. Quelle est d'ailleurs, Guillaume Gomez, votre recette que vous ne donnerez à personne à part aux auditeurs de...
Bien sûr. Non, vous savez, ça, c'est aussi ce qui a changé. Avant, il fallait travailler des années auprès d'un chef pour pouvoir piquer le début d'un geste technique ou d'une recette. Aujourd'hui, vous savez, on est dans la transmission. Et je pense que les recettes, elles sont là pour être passées. Et la recette, elle est là pour vous guider. C'est ce que j'explique dans chacun de mes livres. Vous arrêtez pas une recette. La cuisine, elle doit ressembler avant tout à celui qui l'a fait. Donc, bien évidemment, vous ferez pas la cuisine comme je la fais. Mais par contre, elle doit vous guider, vous emmener sur quelque chose, respecter quelques bases, la saisonnalité, bien évidemment. Puis après, laissez-vous aller et adaptez-vous.
Alors, Guillaume Gomez, vous connaissez évidemment les envies et les goûts des présidents, mais vous êtes tenu au secret professionnel, secret d'État. Impossible pour vous de nous confier des petits secrets. Néanmoins, juste un, c'est vrai cette histoire qu'Emmanuel Macron, il aime bien les cordons bleus?
Bah écoutez, vous savez, je suis pas là pour parler des goûts des présidents, et c'est ce que je dis à chaque journaliste qui m'interroge là-dessus. Vous avez assez souvent les présidents de la République face à un micro, face à une caméra. Si vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui intéresse les auditeurs d'Europe 1,
ah, le cordon bleu, moi c'est mon plat préféré. Alors j'aimerais savoir si c'est celui de notre
bleu,
président.
On l'a su, je l'ai appris comme vous. C'est pendant la campagne présidentielle, le président a dit mais j'aime les cordons bleus.
Mais il vous réclame rarement des cordons bleus, quoi. En gros.
Non, mais attendez, un vrai cordon bleu c'est fait dans les règles de l'art, c'est très bon. Vous pensez au cordon bleu abominable industriel, mais un vrai cordon bleu.
Nous avons justement un bas bleu avec nous.
Vache.
Oui,
belle transition.
Avec nous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Elle balance, elle, tous les secrets, contrairement à Guillaume Gomez, même les mieux gardés, parce qu'elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde.
Vous en sortez bien. Alors moi, je voulais faire sortir un peu Guillaume Gomez de sa cuisine, mais rester quand même dans un domaine assez proche, qui est celui du parfum, l'odeur, l'effluve, le fumet. Le fumet, aurait dit Henri IV, à qui ses maîtresses reprochaient d'avoir les pieds, le goût, c'est fin, il sentait très mauvais, Henri IV. Oui. Mais depuis la nuit des temps, dans toutes les civilisations, le parfum a eu pour vocation première d'encenser les dieux, de se concilier leur bonne grâce. Et pourquoi la bonne odeur a-t-elle d'abord été liée au divin? Parce que les premiers parfums sont des résines, sont des encens, par nature incorruptible, imputrescible, donc éternel, donc divin, par comparaison avec votre nature éphémère à tous, parce que je pense que vous tous ici présents, vous vous décomposerez, tandis que moi je mourrais certainement en odeur de sainteté, comme Saint-Vincent de Paul ou Catherine Labouré,
j'en connais une qui est bourrée pour de bon.
Exhalons une odeur d'iris et de parfum, parce que vous savez que c'est ça l'odeur de sainteté. Alors la bonne odeur donc a d'abord été sacrée et réservée aux dieux d'abord, à l'élite ensuite. Et à l'époque, évidemment, dans l'Égypte antique, qui est une période dont raffole Stéphane Bern, les parfums étaient bien sûr obtenus sans alcool ni distillation et se présentaient sous forme d'huile, d'onguent odorant, évidemment d'encens, je viens de le dire. Et pourquoi? Parce que le mot parfum lui-même, perfumum, ça veut dire par la fumée. Et alors sachez, prenez-en de la graine à l'Élysée, cher Guillaume Gomez. On brûle en Égypte des substances aromatiques différentes selon l'heure du jour. Matin, midi et soir pour le dieu Ra, qui est quand même le plus important, donc lui il a droit à des odeurs différentes. On enduit les statues de parfum.
Les parfums à Paris pour les dieux Ra.
Non, mais pas du tout. Mais Guillaume Gomez pourrait tout à fait enduire les bustes de Marianne de quelques substances aromatiques dans les couloirs de l'Élysée. Non mais vous manquez un peu d'imagination. l'imagination.
Ces journées sont pas très chargées.
Alors là,
tiens, je vais enlever les bus de Marianne.
Alors écoutez, quand dans le processus de la momification, l'idée c'est de faire du défunt un parfumé. On crée des parfums spécifiques pour chaque momie. Et comme on se dit qu'une momie peut perdre un membre durant son éternité, elle a un parfum spécial qui permettra de reconstituer son corps. Vraiment, la bonne odeur matérialise une forme d'immortalité. Et dans les dîners, ça aussi, prenez-en de la graine, en Égypte antique, on se mettait une sorte de cône, de petits cônes d'essence balsamique qui fondaient sur les cheveux et sur le visage pour parfumer votre personne entière.
Alors, je supporte pas les gens qui se parfument à table. Alors là, pour le coup, c'est insupportable.
Eh ben, écoutez,
ça vous prive des bonnes odeurs de la cuisine.
Bah, c'est ce que vous pensez, mais vous voyez, les Grecs étaient d'un autre avis.
Il faut venir à dîner sans se laver quand je vous invite à la maison.
Je ne veux pas d'odeur négative non plus, d'odeur de parfum quand vous avez un grand vin, un filet de truffe.
Il faut avoir une odeur neutre.
Mais oui, mais les Grecs rajoutaient des parfums au vin. Et dans leurs plats, mais bien sûr. En Grèce antique, on parfume le linge, les vêtements, les étendards, on imprègne les murs de parfums, les chevaux, on parfume les chevaux, on parfume les chiens. Est-ce que vous parfumez vos chiens, Stéphane?
Non, non. Oh my dog. Alors, il y avait un parfum qui s'appelait Oh My Dog.
Et oui, pourtant vous passez toutes vos vacances en Grèce où parfumer les chiens était une chose très, très courue. Et évidemment, bien sûr, des auteurs grecs, dont Plutarque et Aristophane, soulignent le rôle des produits parfumés dans l'excitation du désir amoureux. Ça n'est pas un scoop. Et alors, bien sûr, vous avez parlé récemment dans ce cas d'histoire de Néron. Chez Néron, dans les banquets de Néron, nous décrit Annick Le Guerrer, chercheuse spécialiste des parfums. Tandis que des plafonds pleuvent de fines gouttelettes d'essence rare, des colombes au plumage imprégné de senteurs rafraîchissent les convives à grands coups d'ailes. Là encore, pensez-y à l'Élysée, des colombes qui passeraient les ailes parfumées. Ah bon, ça serait beau. Bon, alchimie
subtile. Ça va plaire à la France insoumise.
Alchimie subtile de tous les sens mise en éveil qui me conduit à conclure avec cette jolie phrase de Brillat Savarin. La découverte d'un mets nouveau, mais on pourrait dire aussi d'un parfum nouveau, fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile.
Oh, admirable.
Merci Clémentine Portier-Kaltenbach. Vous êtes complètement
Je suis enivrée par les parfums divers que je viens d'évoquer.
À suivre, Clémentine, Stéphane, quand ces deux-là se retrouvent seuls à seuls, c'est dans un but bien précis.
Pas de plaisir, c'est uniquement pour procréer.
Non, pour s'affronter. non, pour s'affronter, Stéphane. Tenons-nous-en pour l'instant notre cahier des charges. Le quiz arrive.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Leur affrontement quotidien est toujours un grand moment de cette émission. C'est un peu comme une bataille napoléonienne, mais sans Napoléon et sans budget.
You, bon, bon, bon.
Oui.
Ok, j'ai jamais été très doué pour les bruitages.
Oui, la lucidité est un premier pas vers la sagesse. Stéphane Jouron, à Bern to be alive. Notre fameux quiz, un quiz en l'honneur de notre invité Guillaume Gomez, le chef des chefs, le chef de l'Élysée, qui publie À la table des présidents. C'est un quiz sur la cuisine, un cuisine, comme l'a sympathiquement indiqué la personne qui le prépare et qui ne manque pas d'humour. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Alors évidemment, aujourd'hui, Stéphane, vous jouez, vous avez droit au soutien de Guillaume Gomez, joker. Oui. Et quant à vous, Clémentine, vous avez droit à un joker en la personne d'Olivier Pouls, qui est avec nous en studio. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Partons pour la Chine. Voilà. Fascinant empire du milieu. On doit à Han Wudi, le 7e empereur de la dynastie Han, que vous connaissez bien Stéphane, la première plantation de litchi dans l'enceinte de son palais il y a plus de 2100 ans. Et d'ailleurs, le saviez-vous, le fruit de litchi est venimeux pendant 6 mois et comestible totalement au bout d'un an. Vrai ou faux?
Alors là...
Vous n'êtes pas très litchi.
Non, je sais pas.
À part les cagnottes litchi que vous avez organisées pour votre anniversaire, on sait tous ce que tu disais.
Ce qui voudrait dire qu'il y aurait donc une matière dangereuse et vénéneuse qui se métaboliserait à l'intérieur du litchi et qui
bizarre,
à l'origine
ça.
Dangereux. Vous parlez pas plutôt du fugo là, le poisson japonais
le
mortel.
Mais ça c'est un poisson, ça n'a rien à voir.
Je sais bien,
fruit.
Mais ça serait
Guillaume,
peut-être une blague.
Vous comprenez d'où on part dans cette émission.
Non, ça doit être une blague de Bordenave. Ça, pourquoi le litchi?
Bordenave étant la personne qui prépare ce quiz. Oui.
Je vois pas pourquoi tout d'un coup le litchi changerait de nature.
Donc vous répondez
non.
Vous avez gagné.
Ah oui, bien
sûr. Faux, Stéphane. Effectivement, en revanche, si vous voulez que votre arbre donne des litchis, il faut qu'il stresse. 11 degrés. Il faut des baisses de température et même des agressions physiques comme des branches cassées ou des coups reçus. Il faut taper. Si vous voyez que, et en Chine, il y a des Chinois tapés dans un arbre, ils ne sont pas fous.
Fais-moi mal, litchi, litchi, litchi.
Effectivement, je n'attendais pas mieux que ça.
C'est la saison du litchi, d'ailleurs.
C'est la saison du litchi. Qu'est-ce qu'on, un petit plat au litchi? Moi, je déteste le litchi, personnellement.
Vous n'avez pas mangé de vrais litchi frais? Il faut les acheter maintenant. C'est délicieux. Ça n'a rien à voir avec vos trucs en boîte. Mais des vrais litchi frais, c'est absolument délicieux.
Et on a, en ce moment, c'est la saison du litchi français dans nos dom-toms.
Ah, il y a du litchi français dans les dom-toms.
Il y a du litchi français dans les dom-toms.
Est-ce qu'on stresse aussi les litchi français?
Sûrement.
Mais pas la chinoise, à mon avis.
Question numéro 2.
Le supplice pour chinois
vous,
du litchi.
Clémentine. Oui. Clémentine, lors du deuxième voyage de Christophe Colomb en 1493 en Amérique, il va rapporter des moutons de la race Chura. Ça donnera le nom au fameux Churros. Vrai ou faux?
Alors là, non. Dis non tout de suite, on va gagner du temps.
Hein. Elle dit non tout de suite, écoutons la réponse.
Vous avez perdu.
C'est Chura qui a donné le churros.
Vous avez perdu
vous
parfois
ignoble,
les questions
Mathieu,
les plus connes.
Vous récitez ça sur un ton tellement du gars
Badin.
Qui n'y croit pas
oui.
Et qui est en train de faire une blague
de vous
pour
c'est mon
en
métier.
Erreur. C'est pervers.
Le churros vient de Chine, mais il était salé. Des marchands portugais ont essayé avec du sucre. Les churros actuels sont originaires de Madrid. Le nom a été inspiré de Oveja Chura, une race de moutons qui a les cornes en forme de churros.
Ah, bah magnifique.
Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. En 1965, Kodak invente le format Super 8. C'est une révolution cinématographique car tout le monde va pouvoir filmer. 2018, autre révolution, l'invention de la bière Super 8. La bière qui peut servir à développer les pellicules photos et les films Super 8. Vrai ou faux, Stéphane? Là, on est vraiment au cœur de l'histoire. Hein. On va voir si vous êtes fort ou pas.
Non, c'est un piège, c'est pas possible. Non, j'ai jamais entendu cette idée. Je me souviens des films en Super 8, oui. Ça, oui.
Mais de la bière qui permet de développer ces mêmes films en Super 8, vous n'y croyez pas?
C'est tellement idiot, vous. C'est tellement bête que ça doit forcément être vrai.
C'est une hypothèse.
Aucune idée.
Non, je dirais non.
Vous dites
non.
Plonger le film dans la bière et
parce
paf,
que
il
parce que ça défie l'intelligence humaine.
Ça défie l'intelligence humaine, mais ça serait assez créatif.
Donc c'est possible.
Est-ce que quand on fait de la photo, il me semble pour développer, il y avait deux bains différents. Ouais. Il y a peut-être une question d'acidité, de pH, de quelque chose.
Bon, alors,
il y a des levures dans la bière.
Grâce
moi, je trouve ça intéressant.
Autres, Stéphane évolue.
Moi, j'aurais peut-être dit oui.
Il évolue dans sa réponse, Stéphane. Vous gardez votre réponse vraie ou faux?
Non, je dirais oui pour vous faire plaisir.
Vous avez.
Oh, bien joué Stéphane! Quelle bonne réponse! Tout est une question. Tout est une question de pH. D'ailleurs, d'autres bières peuvent le faire, mais celle-là a été élaborée également avec les ingénieurs de chez Kodak, qui décidément n'ont vraiment plus que ça à foutre, pour développer parfaitement vos pellicules. En plus, elle a le goût de mangue, de mûre, de framboise et de quinoa grillé que demande le peuple. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Attention, c'est la question qui probablement va vous départager. Au XVIe siècle, Hans Staden, un marin allemand, s'échoue au large du Brésil. Il va vivre 2 ans avec une tribu cannibale, sans être bouffé lui-même. Le nom de cette tribu, les Tupinambas. Les Tupinambas donneront leur nom
au topinambour. C'est tout à fait exact.
Topinambour.
Oui, c'est vrai.
Vrai ou faux? C'est une question, c'est me signale-t-on en régie, qui vaut 2 points.
Oui. C'est vrai. Ne
me demandez pas pourquoi.
Parce qu'elle
est une question qui vaut 2 points.
C'est un
signal. C'est le seul quiz où il y a des changements de règles
en
cours de jeu. 2 points, voyons voir.
Je connais la réponse. Les Topinambas, c'est en effet une tribu d'Amérique latine. Tout à fait.
Vous avez.
Incroyable renversement de situation dans le quiz, puisqu'effectivement...
Je prends la témoin, les auditeurs.
Oui, mais sur la bière, c'est moi qui vous ai aidé, Stéphane. Vous
oui, c'est vrai, Stéphane,
non,
vous alliez droit dans le mur.
J'ai le droit d'évoluer dans mes réponses.
Le topinambour est arrivé en France au début du XVIIe siècle et plusieurs membres de la tribu des Tupinambas furent amenés comme curiosité à Rouen et à Paris à la même époque. Convaincus à tort que les tubercules avaient été apportés par les indigènes, on a appelé les tubercules les topinambours. Et le nom est resté. Les topinambours, c'est redevenu à la mode. Ça. On voit beaucoup de topinambours dans le restaurant depuis quelques années. Est-ce que, Guillaume Gomez, vous aimez les topinambours? Vous aimez les cuisiner? Vous trouvez que c'est un peu...
J'aime énormément le topinambour. C'est vraiment un produit qui a un goût spécial. Et c'est vrai que c'était un peu tous ces légumes oubliés, qui sont de moins en moins oubliés, puisqu'on les trouve vraiment partout. Et c'est les légumes, c'est la saison aussi. C'est les légumes d'automne, d'hiver.
À une époque,
les
on disait
panais
que
aussi.
À l'époque, on disait que s'ils avaient été oubliés, c'est qu'il y avait
des vraies raisons. Oui.
Et non, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ils ont tous leur intérêt.
Non, parce qu'en fait, c'était un légume qui se cultivait très facilement, qui poussait quasiment tout seul. Donc, une certaine noblesse se disait, on peut pas manger ces légumes-là que le peuple peut manger. Et donc, c'est là où on les a oubliés.
C'est aussi qu'on en a trop mangé pendant la guerre. Oui, les topinambours, voilà. Les gens en avaient ras-le-bol.
Surtout Stéphane.
Mais je vous recommande l'association Topinambour Truffe, Mathieu, ça marche très bien.
Voilà.
Oui. Je ne le savais pas. Question numéro 5.
Et après,
5.
C'est moi que vous traitez de Marie-Chantal. Non, mais ça va pas, non.
Alors, frit en chips, c'est délicieux.
Frit en chips,
voilà.
La belle idée.
C'est un petit goût d'artichaut.
C'est la question ultime qui va départager nos deux champions. Une question de rapidité. Attention, on ne répond qu'une seule fois que j'ai énoncé les trois propositions. Rudy Kurniawan est indonésien. Il a un lien particulier avec le monde de la gastronomie. En 2008, il lui arrive une tuile. Laquelle ? Œnologue mais escroc, il a vendu des bouteilles qui n'existaient pas. Élu meilleur boulanger du monde l'année d'avant, il a inventé un pain au chocolat à la menthe qui lui a fait faire faillite. Sa spécialité, c'est le poisson fougou, qui mal cuisiné peut être mortel. Il est mort en goûtant son plat.
1, 3.
C'est
1, 3. Stéphane Bern remporte pour la première fois depuis fort longtemps. Il faudrait se plonger dans les archives pour vérifier, mais depuis très longtemps, le quiz de culture générale. Effectivement, Rudy Kurniawan a vendu 97 bouteilles de Clos Saint-Denis millésimé de 45 à 71, alors que le domaine n'avait été créé qu'en 1982. La boulette, en 2014, il doit rembourser 28 millions de dollars. Il est condamné à 10 ans de prison. Olivier, vous connaissez bien l'histoire parce que vous l'aviez aidé à l'époque.
Hein. Non, je ne l'ai pas aidé, mais c'est un faussaire bouteille. De génie. Il s'est fait attraper sur cette histoire, mais il faut savoir que pendant des années, il a vendu pour des millions de dollars à des collectionneurs de vins américains, des fausses bouteilles.
Il était surtout expert pour les ventes aux enchères.
Il travaillait auprès des flougrands. Et il est allé un peu loin, effectivement, en créant des vins qui n'avaient pas existé.
Un peu trop loin. Le coup des millésimes, ça paraît fou, parce que s'il s'y connaissait en vin, il savait bien que ce Clos Saint-Denis n'existait pas avant 82.
Ce Clos Saint-Denis existait, mais la propriété ne le possédait pas, en réalité. Le propriétaire a dit, nous, on a eu du Clos Saint-Denis, mais beaucoup plus tard. Mais le Clos Saint-Denis existait.
En tout cas, belle victoire pour vous, Stéphane.
Merci. Sur le pinard, hein, alors, vous pouvez préciser.
Oui, enfin, vous a rajouté des points, Clémentine.
Non, et essayez d'avoir le triomphe un peu modeste et un peu fair-play. Merci, Stéphane.
Il y a une certaine tension,
merci,
là.
Merci, Stéphane.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Avec celui qui peut se la raconter dans bien des domaines, mais pas en cuisine, Mathieu Noël. Vous prenez des notes aujourd'hui.
Je vous en prie, Stéphane, on n'a pas tous la chance d'avoir comme vous un chef à domicile.
Dites pas n'importe quoi.
Je ne dis jamais n'importe quoi, un jour je mettrai les photos sur Instagram. Bref, aujourd'hui c'est nous qui recevons un chef à domicile et pas n'importe quel domicile, pas n'importe quel chef, celui d'un personnage encore plus important que vous, Stéphane, le chef de l'État.
Et oui, Mathieu, nous avons la chance de passer l'après-midi avec Guillaume Gomez à l'occasion de la parution de son nouveau livre « À la table des présidents » paru aux éditions du Cherche Midi. Comme d'habitude, on réunit trois personnages qui, en fait, n'auraient jamais pu se croiser.
Mais non.
Bah oui, parce qu'ils vivaient dans des siècles différents, mais qui ont quand même un point commun. Ils ont été les chefs des chefs. Après Antonin Carême, je vais vous raconter le destin d'un chef français au service des tsars de Russie, Pierre Cuba. Et Mathieu, de son côté, brossera votre portrait. Vous êtes prêt, Mathieu ?
Oui, ça avance. Là, j'en suis au dressage. Je veux que tout soit parfait, notamment les feuilles de briques. Guillaume voit de quoi je veux parler.
Vous allez parler quand même de sa cuisine est généreuse comme lui. Hein.
Ah, mais ça, je vais parler aussi de ça.
Sa générosité, parce qu'il fait beaucoup de choses pour les associations et les.
Ah non,
et les
ça, j'en parle pas, moi.
Avant. Ah bon. Mais franchement,
Stéphane, vous dînez plus souvent à l'Élysée que moi. Vous connaissez mieux Guillaume que moi, je crois.
C'est pas une question de dîner à l'Élysée. Ce garçon a un cœur d'or, vraiment.
Je crois d'ailleurs que les recettes de son livre sont reversées à des associations.
Tout à fait. L'intégralité des droits, comme de mes bouquins précédents, sont reversés à des associations caritatives que je soutiens, et celles-ci partent dans l'océan Indien pour deux écoles que j'ai ouvertes à Madagascar.
Voilà, je vous l'avais dit, hein, je vous ai pas menti.
On a l'air bien, nous, comme ça.
On se sent tout de suite minable.
Mais oui, parce que
c'est-à-dire que moi, je ne reverse pas mes droits d'auteur.
Vous gardez tout pour vous.
Effectivement, c'est dégueulasse.
David Castillo-Lopez. Vous le racontez. Alors, les origines, d'habitude, c'est les origines d'un objet, d'une tradition, d'une spécialité. Alors là, vous la connaissez très bien, parce qu'elle vient de votre pays d'origine.
Exactement, c'est le pastel de nata, ces petits flans.
on pourrait dire un petit flan avec de la pâte feuilletée. Oui. Et c'est une des plus grandes gloires du Portugal. Et oui. je t'en parle.
Olivier Pouls, en tout cas, est avec nous, Stéphane, notre spécialiste gastronomique, qui va nous parler aujourd'hui. Il fait la tête de veau.
Bah, le plat préféré, ou en tout cas supposé-t-elle du président Jacques Chirac, ce qui lui a valu d'ailleurs en manger probablement plus qu'il ne l'aurait souhaité. Mais je vous donnerai la recette, tiens. Et puis de la sauce gribiche, surtout, qui va avec.
Le mot de la fin reviendra évidemment à Stéphane Bern. Une expression décortiquée chaque jour, Stéphane, une expression qu'on utilise tous les jours. Aujourd'hui, je suis charrette.
Vous l'utilisez jamais, cette expression ?
Si, ça m'arrive.
Eh bien, ça vient des étudiants des Beaux-Arts, mais je vous raconterai d'où ça vient, l'expression. Pourquoi on est charrette quand on est en retard, qu'on doit rendre un travail qu'on n'a pas fini, on dit « je suis charrette ».
Et tout de suite, Stéphane, découvrons la vie d'un chef français au service des Tsars. Il s'appelait Pierre Cubat, mais il a choisi la Russie. Stéphane Bern nous raconte son destin.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Nous partons à présent en Russie. Et partir en Russie, c'est agréable pour deux raisons. Déjà, c'est dépaysant. Et surtout, c'est l'occasion de ressortir notre musique intitulée dans la base de données « Russie, pas cliché ». Vous êtes lancé, Stéphane, je vous laisse procéder au récit.
Quand notre récit commence, le jeune Pierre Cubat a 23 ans. On le retrouve dans son élément, au milieu des casseroles, dans les cuisines du Café Anglais à Paris. Nous sommes le 7 juin 1867. Et ce jour-là, plus que les autres, les Marmitons et leurs chefs sont sous pression. Et pour cause, le restaurant accueille des convives de marque. Imaginez donc assis autour d'une même table pour le dîner, le tsar Alexandre II, son fils, le tsarévitch, le roi de Prusse, Guillaume Ier, et pour couronner le tout, le futur chancelier de l'Empire allemand, Otto von Bismarck.
Il fallait pas se planter, là.
Ah, il fallait pas se planter, oui. Il faut dire que cette année-là, la capitale française, on a vu défiler des têtes couronnées. Et oui, le monde entier se presse sous les pavillons du Champ de Mars pour découvrir l'exposition universelle. Alors, après un programme bien chargé, il y a quand même 50 000 exposants, tout ce beau monde a grand besoin de se requinquer. Telle est la mission du brigadier Cubat, toujours prêt à satisfaire les papilles les plus exigeantes. Au menu, pour régaler ces messieurs, de quoi vous faire saliver, pas moins de 16 plats, parmi lesquels des filets de sole à la vénitienne, du homard à la parisienne, du pâté chaud de caille, de l'escalope de turbo au gratin, des canetons à la rouennaise, et j'en passe. Et pour arroser ces mets raffinés, le vin coule à flot, évidemment, mais pas n'importe quel vin. Le sommelier a su dénicher des bouteilles d'exception. On pourra s'enivrer sans crainte d'un mal de tête avec un Xérès 1821, Château Margaux 1847 ou encore Madère 1810.
T'as un petit point avec Olivier Pouls, 1847, c'est une bonne année pour le Bordelais ?
Bon, écoutez, j'en ai pas bu souvent dans ma vie, mais probablement.
À la fin de ce festin, qui a duré 8 heures tout de même, tout le monde est repu, quoique le tsar est un peu déçu de ne pas avoir mangé de foie gras. Et bien qu'Alexandre II ne s'en fasse pas trop, bientôt un petit cuisinier qu'il n'a même pas vu viendra le régaler à domicile, en l'occurrence le palais d'hiver de Saint-Pétersbourg. Pierre Cubat lui servira tout le foie gras qu'il réclame. Mais rembobinons un peu, pour en connaître davantage, sur la vie de ce jeune cuisinier de province qui devint chef chez les grands chefs. Pierre Cubat est d'origine d'Allais-les-Bains, une petite bourgade nichée dans l'Aude. Là-bas, tout le monde connaît les Cubates. N'oublions pas l'accent du Sud pour plus de réalisme. Qui sont bouchés.
Que vous faites si bien.
Non, je voulais pas exagérer non plus, vous voyez, parce que ça fait vraiment le Parisien
qui essaye de
singer le sud-ouest. Ils sont donc bouchers, disais-je, et limonadiers de père en fils. Mais Pierre est un jeune ambitieux, alors un village de 1300 âmes, non merci. Le voilà qui part à l'assaut de la capitale et atterrit dans les cuisines d'Alfred Duglairet. Il y concocte des petits plats pour tout le gratin de la société. Mais comme Cubat a l'âme d'un aventurier, le voici qui s'engouffre dans un train à vapeur, direction Saint-Pétersbourg. Un peu de Tchaïkovski, ça fait pas de mal. Hein. Après un voyage interminable et un petit choc thermique à la sortie du wagon, il fait froid en Russie, hein, je le précise pour ceux qui veulent voyager, il est fin prêt à démontrer ses talents culinaires. Et hop, en un claquement de doigts, on retrouve Pierre Cubat en poste dans les cuisines du tsar Alexandre II. Il faut dire que pour le tsar, son CV défie toute concurrence. Le monarque adore la cuisine française, n'a jamais oublié l'excellent dîner dégusté au Café Anglais 6 ans plus tôt. D'ailleurs, voilà ce qu'il ordonne à sa nouvelle recrue. Cubat, vous me ferez toujours manger comme à Paris. C'est bien meilleur. Cubat rajuste sa toque et s'exécute, particulièrement motivé par son environnement professionnel.
Il n'a jamais vu une batterie de cuisine si étincelante et se dit que décidément les Romanov ne se moquent pas de leurs employés. Il n'y a qu'à voir dans l'office pas un ustensile qui ne soit en argent massif, pas une poêle dont le prix n'atteint pas les 10 000 francs. Et face à cet incroyable gris en or qui date du temps de la Grande Catherine, notre chef s'imagine déjà rôtir des cochons bien dodus. Mais trêve de rêverie, le chef Cuba a du pain sur la planche, son patron est un fin gourmet qu'il va falloir satisfaire. Et gare à lui, s'il commet la moindre erreur, les services secrets du palais sont jamais très loin et une armada de médecins veille au grain en inspectant la salubrité des cuisines. Il ne faudrait pas que le tsar tombe malade à cause d'un aliment défraîchi ou pire, qu'on tente de l'empoisonner. Bon, on n'est jamais trop prudent, mais tout de même, Pierre Cuba n'est pas un opposant politique en mission d'infiltration, non, c'est pas un anarchiste, vous voyez. Non, Pierre Cuba est un chef cuisinier dévoué. Et Alexandre II ne boude pas son plaisir. Il se régale avec des suprêmes de mauviettes, des gélinottes rôties, des œufs de caille à la sauce champagne, des pommes de terre en robe de chambre. Bref, cette fine bouche impériale est comblée. Malheureusement, son dernier repas a lieu un peu trop tôt. En 1881, Alexandre II trouve la mort dans un terrible attentat. Il n'y a plus qu'une chose à dire. Le tsar est mort, vive le tsar. Désormais, Pierre Cuba servira Alexandre III. Sauf que là, voyez-vous, le nouveau souverain n'est pas amateur de bonne chère comme l'était son père. Disons qu'Alexandre III est un brin plus rustre. Il aime la simplicité des plats bien de chez lui. Alors pour le ravir, rien de plus simple. Cuba n'a qu'à préparer un chi, c'est-à-dire une soupe de choux, ou de la kachaoum, une savoureuse bouillie de céréales.
Savoureux, effectivement.
Oui, ça donne envie. Pour quelqu'un qui travaille dans les plus belles cuisines d'Europe, voilà un travail qui perd un peu de sa saveur. Mais cela ne dure pas. Car après 10 ans de bons et loyaux services dans les cuisines impériales, Pierre Cuba est sommé de rendre son tablier et de plier bagage. Oui, le bougre a vexé l'impératrice. Il a jeté au feu de jolies images pieuses qu'elle venait d'offrir à la brigade de cuisine. Et oui, pour la défense du chef, c'était pas le moment. Bon, faut dire, il était en plein coup de feu, justement. Il reçoit des images pieuses. C'est pas le moment, il les met au feu, voilà. Bon, Pierre Cuba n'a pas le choix, il doit quitter le palais. Avec une petite consolation tout de même, il a des roubles plein les poches. Voilà de quoi ouvrir son propre restaurant. Bientôt, la fine fleur européenne se retrouve au Café de Paris à Saint-Pétersbourg et à l'hôtel de la Païva sur les Champs-Élysées. Mais il se pourrait bien que Cuba n'en ait pas tout à fait fini avec les Romanov. Car, voyez-vous Mathieu, et voyez-vous les autres, en 1896...
Vous les autres, écoutez bien.
Car en 1896, quand Nicolas II reprend le flambeau à la tête de l'Empire russe, à ses risques et périls, hein, surtout ses périls, on verra, Pierre Cuba, lui, reprend du service auprès du tsar. Voilà un homme qui, toute sa vie, aura œuvré pour l'amitié franco-russe. Si ça, c'est pas un dessert.
Europe 1, historiquement vôtre.
On continue à parler des chefs et de Pierre Cubat en particulier. Juste une petite question par rapport à votre récit, Stéphane, comme on a la chance d'être avec Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée. J'ai entendu parler d'un plat qui, personnellement, m'a intrigué, le suprême de mauviette. Alors, c'est un défi que je vous lance. Guillaume, est-ce que vous pouvez préparer un suprême de mauviette? Qu'est-ce que c'est, la mauviette?
Alors, la mauviette, c'est une petite volaille et on peut pas en préparer parce qu'on n'en trouve plus et je
ça
crois que
plus.
La chasse, bah je sais pas si ça existe plus, mais la chasse étant interdite, ouais. Je pense qu'on ne peut plus la chasser. Donc à l'époque, ils cuisinaient beaucoup de choses comme ça, de la tortue, du pied d'éléphant.
Et d'ailleurs, c'est de là que vient l'expression les mauviettes.
Mais non.
Mais bah oui, bien sûr.
Vous êtes sûr de ça ou ah, vous bah, le dites comme ça peur, un petit peu au bluff.
Bah oui, oui.
Ouais. Elles avaient peur.
Des petites choses qui ont bon, peur de
on
tout.
On vérifiera quand même. On continue à parler des chefs, nous sommes toujours...
Mais ils me croient jamais.
Non, je demande vérification.
Le tout, c'est je fais comme et vous, j'affirme les choses avec aplomb.
Stéphane, vous nous avez joliment apostrophé tout à l'heure en nous appelant les autres autour de la table. Un nouvel autre est arrivé, Nicolas de la Bretèche nous a rejoint. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Oui, l'un nous invite à la table des présidents, l'autre à la table des tsars. C'est votre livre, Nicolas de la Bretèche, un livre dans lequel vous racontez la fabuleuse ascension de Pierre Cuba à la cour des empereur russe. D'abord, je me tourne vers Guillaume. Vous aviez entendu parler parce que je vous voyais acquiescer pendant mon récit. Pierre Cuba fait partie des grands noms,
des grands chefs de la gastronomie, des grands noms de la gastronomie française. C'était l'un des premiers à s'exporter. Vous savez que après cette époque, après Antonin Carême, justement, les chefs ne sont plus des serviteurs. Ils ne portent plus la livrée dans la maison. Ils sont devenus officiers de bouche. Et Pierre Cuba était l'un des premiers à s'exporter. Et vous parliez de ce fameux repas des trois empereurs où la table est encore visible aujourd'hui. La table est conservée à la Tour d'Argent. restaurant. Et ce fameux foie gras qui est réclamé, il faut savoir qu'à cette époque, on respectait un peu plus les saisons parce qu'on n'avait pas le choix, surtout. Mmh. Et vous pouvez déguster le fameux foie gras des trois empereurs qu'a reçu le tsar quelques mois après en Russie.
Absolument, ça donne envie. Alors, justement, dans votre livre, Nicolas de la Bretèche, vous racontez que le prince de la table à la table des princes, Pierre Cuba, n'a jamais disparu de la mémoire collective. Il est en effet cité dans les écrits de Gaston Leroux, de Conan Doyle, de Tchekhov et plus récemment d'Alexandre Solzhenitsyn. Et pourtant, aucun ouvrage ne lui avait encore été consacré. Comment vous l'expliquez ?
Oui, vous avez raison Stéphane. Pierre Cuba a été l'un des plus grands cuisiniers de son époque. Et c'est vrai que même s'il dispose toujours d'un fauteuil à son nom, hein, à l'Académie culinaire de France, il est un peu oublié aujourd'hui. Mais je dirais que ce sont probablement les tsars eux-mêmes, au fond, qui en parlent le mieux. Par exemple, un jour, Nicolas II, qui parlait très bien français avec une pointe d'accent slave, a convoqué Pierre Cuba dans son bureau au palais Alexandre, à Tsarskoïe Selo, et lui a dit « Écoutez, Cuba, vous m'avez toujours régalé avec des délicieuses pièces montées. Eh bien, cette fois-ci, c'est à moi de vous offrir une pièce montée pour vous remercier. » Et le tsar a offert à notre cuisinier, dans un coffret en ébène, une pièce en or de 25 roubles à son effigie, montée sur un dôme sculpté en malachite.
Voilà. Oui, voilà. Bien malachite, mais profitez-en. Voilà.
Et un joli geste qui montre l'attachement du tsar à son cuisinier, qu'il connaissait, lui, depuis l'âge de 5 ans. Puisque Cuba était entré au service d'Alexandre II, on le disait tout à l'heure, en 1873, 40 ans plus tôt.
C'est quand même un destin. Vous-même, comment vous êtes entré dans l'histoire de Pierre Cuba ?
Alors, ça c'est une histoire incroyable. Il y a 3-4 ans, je visitais la région de Sainte-Menehould, dans la Marne.
Ah oui.
Et vous savez, là où le fameux agent des postes
Drouet a fait arrêter Louis XVI en route vers Lorraine.
Les fameux pieds de porc.
Absolument. Et donc, j'ai passé une nuit dans une chambre d'hôte au château de Vaux, à Chaudefontaine, tout près. Et devant la beauté du domaine, j'ai demandé à ses propriétaires, des charmants Siciliens, quelle était l'histoire de la propriété. Et là, ils m'ont répondu, ce château a été offert par Nicolas II à son cuisinier, Pierre Cuba, qu'il adorait.
Et là, Guillaume Gomez se dit, mais moi, Emmanuel Macron ne m'a pas encore acheté de château. Et ça tarde un peu, ça fait longtemps que vous êtes à l'Élysée.
Il a un petit truc à Versailles, je crois qu'il pourrait
vous donner. Et là, la lanterne, ça vous irait comme cadeau de départ
ou... Pourquoi il doit partir
Attendez.
La chute va vous plaire. Oui. Parce que donc c'était l'heure d'aller me coucher, donc je suis monté me coucher, et le propriétaire du château m'a dit, et en plus, le hasard veut que je vous ai réservé la chambre de Pierre Cuba, et comme nous avons conservé son lit, vous allez dormir dans le lit de Pierre Cuba. Alors ça, je peux vous dire, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, cette histoire m'a travaillé absolument toute la nuit, et le gag veut que le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai dit à ma charmante épouse, écoute, nous n'étions pas deux dans le lit, nous étions trois, il y avait le fantôme de Pierre Cuba. Voilà.
Et du coup, après, vous avez eu envie d'écrire l'histoire de Pierre Cuba. Je sais que dans votre livre, il y a d'authentiques recettes, elles ont été réalisées par Gérard Dupont, le président d'honneur de l'Académie culinaire de France. Il les avait compilés dans un petit carnet que vous lui avez piqué. Mais comment vous avez pu les reconstituer, les retrouver, toutes ces recettes ?
Alors, j'ai pas été le seul à avoir envie d'écrire un livre sur Pierre Cuba. Oui. Et deux autres auteurs ont essayé avant moi et en fait ont abandonné parce que justement, il n'y a pas les recettes. À quoi ça sert d'écrire un livre sur un cuisinier s'il n'y a pas une recette, quoi. Ça manque un peu. Et alors donc, j'ai fait des recherches en Russie, aux archives d'État de la ville de Saint-Pétersbourg. Et puis en France, alors j'ai dû employer les services d'un généalogiste pour retrouver les descendants de Pierre Cuba.
Il a toujours des descendants.
Qui nous écoutent aujourd'hui et qui vous disent bonjour.
Ah ben on les salue amicalement. J'espère pas avoir dit trop d'horreur sur leur aïeul.
Voilà, et donc c'est comme ça que j'ai retrouvé 12 recettes qui sont présentées donc dans le livre À la table des tsars chez Macha Publishing. Nous sommes bien amusés parce qu'on n'avait pas envie de les présenter de la vaisselle Ikea. Et donc, on les a reconstitués, donc avec l'aide du président d'honneur de l'Académie culinaire de France. Et surtout, donc, on les a photographiés dans de la vaisselle d'époque. Baccarat a prêté le service de vin de Nicolas II à plus de 3000 euros le verre. Hein, donc, on a fait attention pendant les prises de photos.
C'est un peu comme
et puis, des collectionneurs ont prêté de la vaisselle qui venait de la cour de Russie. Et puis, le plus drôle, c'est Château Margaux, qui nous a prêté pour le décor une bouteille de Château Margaux de 1900.
Donc, vous l'avez ouverte, non?
Attendez, écoutez, on avait des précautions, elle est arrivée dans une boîte, une grosse boîte en polystyrène, etc. Et quand on l'a ouverte, tout le monde a ri parce que c'était une boîte factice qui sert pour le cinéma, donc il y avait évidemment rien dedans, donc on n'a pas pu la boire. Voilà.
Quel dommage. Et là où la grande histoire rejoint la petite, c'est vrai qu'après, Pierre Cuba a ouvert un restaurant avenue des Champs-Élysées à Paris, à l'hôtel de la Païva, Qui paye y va, disait-on à l'époque, parce que on a raconté son destin.
Oui,
il était
un peu olé olé.
Il manquait plus que son lieu de travail, avait dit Alexandre Dumas fils, c'est le trottoir. Et c'est au 25 avenue Champs-Élysées. Bref, Nicolas de la Bretèche rappelle votre livre À la table des tsars, la fabuleuse ascension de Pierre Cuba à la cour des empereurs russes. C'est paru aux éditions Macha. Je vous le recommande parce que c'est vraiment. Et je crois que vous êtes en train d'écrire une biographie d'Antonin Carême dont j'ai parlé tout à l'heure.
Alors je suis en train d'écrire une biographie de tous les chefs cuisiniers qui ont travaillé à la cour de Russie, parmi lesquels bien sûr Antonin Carême, qui n'est pas resté d'ailleurs très longtemps.
Non, mais écoutez, voilà, c'est passionnant. Et puis j'en profite pour dire, à défaut de recevoir un château de la présidence de la République, on peut dire que Guillaume Gomez a été fait légionnaire puisque maintenant, à la promotion du 1er janvier, vous avez reçu la Légion d'honneur. Le ruban rouge, voilà, félicitations.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les chefs des chefs. Et après Antonin Carême et Pierre Cuba, Mathieu, c'est vous qui brossez le portrait, à 99% vrai, je préfère notre invité, de notre invité justement, Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée. Hier, vous m'avez dit, je vous cite... Tu vas voir lui, je vais pas le louper.
Ah oui, mais ça c'était hier, Stéphane. Je n'étais pas encore suffisamment documenté sur Guillaume, mais surtout, je n'étais pas encore tombé sur ce reportage où il déclare les gants au poing sur un ring.
Ça fait 17 ans que je fais de la boxe, j'ai commencé avec les gardes du corps à l'Élysée.
Ok, alors Guillaume, on est début janvier, parmi mes bonnes résolutions, ne pas s'embrouiller avec un type qui fait de la boxe avec les gardes du corps de l'Élysée, d'où l'angle choisi pour mon portrait aujourd'hui, Guillaume Gomez, itinéraire d'un nouveau Bocuse en mieux. Pas besoin de beaucoup me forcer non plus, c'est pas comme si en cuisine je pouvais rivaliser ou opposer une quelconque critique au chef de l'Élysée, meilleur ouvrier de France. La seule fois où j'ai essayé de faire la cuisine pour l'équipe d'Historiquement Vôtre, David, qui fait partie des rescapés de ce dîner, peut en témoigner. Hein.
J'ai vomi de douleur.
Voilà. Mais même notre expert gastronomique, Olivier Pouls, à vos côtés, a renoncé à faire mon éducation. Il désespère de mon palais. À une époque, il avait tenté de m'initier aux subtilités de l'œnologie, mais devant mon incapacité à distinguer un mouton Rothschild d'un baron de l'Estaque, il a abdiqué. Maintenant, quand on entre dans un bar, il commande directement pour moi.
Une sangria à la bière.
On gagne du temps, il connaît mes goûts. Avec nous donc aujourd'hui, Guillaume Gomez, chef de l'Élysée depuis 23 ans. Il est l'homme qui cuisine tous les soirs pour Emmanuel Macron et donc un soir sur deux pour Stéphane Bern.
Mais arrêtez avec cette légende.
Je mets toujours de côté une belle truffe mélanosporum pour Monsieur Bern. Il en raffole, me confiait Guillaume pendant la pub. Oui, inutile de nier Stéphane et de vous obstiner à le vouvoyer à l'antenne alors que dans la vie vous l'appelez Guigui et que tout à l'heure, au moment de l'accueillir, vous ne lui avez pas dit bonjour Monsieur Gomez, quel plaisir de vous accueillir, mais.
Wesh gros, ça va ou bien? Tranquille, la famille, toi-même, tu sais, ouais.
Chef, un beau métier. Un beau métier, chef, Stéphane. Mais pas un vrai métier, en tout cas aux yeux de Monsieur Tornadigio, votre prof principal, Guillaume, au lycée, qui avait dit à votre mère, « Vous savez, madame, vous allez envoyer votre fils apprendre la cuisine, mais il peut faire un vrai métier. Il a des capacités. Oh, » Alors, à sa décharge, nous étions dans le monde d'avant Top Chef. Monsieur Tornadigio ne pouvait pas deviner que les cuistots seraient les stars de demain. Il y avait déjà Starac, la nouvelle star. Mais il faudra encore attendre quelques années pour que snacker un thon ou réussir une mayo suscite chez les téléspectateurs la même émotion que la reprise d'un tube de Jacques Brel ou ukulélé. Qui sait d'ailleurs, la prochaine étape sera peut-être l'hybridation de ces deux types de programmes, ce qui pourra donner des prestations comme « Quand on a que le boulgour à s'offrir en potage ». Aujourd'hui, bref, non, je lance des idées comme ça pour aider la création audiovisuelle. Vous, Guigui, vous n'avez pas eu besoin de la starisation des chefs pour avoir envie d'en devenir un tout petit déjà à la kermesse de l'école, quand les garçons se déguisaient en cow-boy, les filles en princesse et Stéphane en majordome du grand-duc du Luxembourg. Vous déguisiez en cuisinier. Issu d'une famille de brocanteurs pas spécialement portés sur la cuisine, vous partez quasiment d'une page blanche. Vous déclarez dans le Figaro Madame, à 14 ans, je n'avais jamais vu ni truffe ni caviar de ma vie.
Non, c'est vrai?
Oui, Stéphane. C'est fou, mais c'est vrai. Alors, je sais que c'est dur à concevoir, hein, les penées au caviar étant le casse-croûte habituel des lycéens.
Ah non.
À Neuilly. Entre 15 et 20 ans, Guillaume commence à se former à la cuisine. Il obtient un BEP hôtellerie-restauration à l'école de Paris des métiers de la table. L'appellation est longue, c'est toujours bon signe. Puis, à 20 ans, vous partez avec votre baluchon et votre économe dans la grande, la vertigineuse, l'éblouissante région d'Alsace. Vous y participez à votre premier concours de cuisine. Votre but, rencontrer les plus grands. À l'époque, vous n'avez encore jamais mangé dans un restaurant étoilé de votre vie.
Non, c'est vrai.
C'est vrai aussi, c'est dingue, Stéphane. À l'époque, Guigui a aussi un petit côté fan d'eux, limite flippant. J'ai lu, Guillaume, vous me direz si c'est vrai, qu'il vous était arrivé de vous cacher plus d'une centaine de fois vers la sortie du resto d'un chef que vous admirez, dans le but de le croiser fortuitement. Hein ? Oh tiens, je me balade. Oh, quelle belle journée pour se balader. Oh, Alain Dutournier, vous ici à la sortie de votre restaurant. restaurant, ça alors, ça doit être le destin qui m'a mis sur votre route. Oh, ou une bonne maîtrise de Google Maps. Un côté obsessionnel qui paye, puisqu'à 25 ans seulement, c'est la consécration. Vous devenez, en 2004, le plus jeune meilleur ouvrier de France, catégorie cuisine, avec une tourte de canard sans bordure. Je n'ai pas foutu idée de ce qu'est une tourte sans bordure, mais visiblement ça a fait son petit effet, les médias s'emballent, vous devenez quelque part le Mbappé de la tourte de canard. Mais ce n'est pas là que vous rejoignez l'Élysée. On l'a dit, en fait vous bossez déjà dans les cuisines de l'Élysée depuis 1997. Autant dire une éternité. Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, eux ils partent, vous vous restez, vous êtes la permanence de la France. Vous a même lancé Nicolas Sarkozy en 2012 lorsqu'il vous a fait chevalier de l'Ordre National du Mérite. Chaque année avec votre brigade, vous envoyez près de 95 000 plats. En 23 ans, ça fait 2 185 000 repas, dont 2 184 999 succès et une contre-performance, en tout cas aux yeux de Nicole Bricq, alors ministre du Commerce extérieur, qui créera la polémique en critiquant un dîner officiel où le président recevait son homologue chinois. Moi, perso, je lui aurais envoyé 2-3 jeux de mots bien sentis à base de briques, briques au fromage, briques à l'œuf, bref, un truc un peu quali en termes d'humour. Vous, Guillaume, rien. Vous aviez eu le tact de ne pas répliquer et le président Hollande vous avait assuré sa confiance. Vous pouvez le dire maintenant, c'était le plus sympa Hollande de tous les présidents. Il a l'air comme ça de loin.
Écoutez, j'ai eu la chance et l'honneur, parce que je pense que c'est un privilège quand même de pouvoir servir le chef de l'État, d'en servir quatre. J'ai travaillé 12 ans pour le président Chirac, donc 10 ans pour le président Chirac. Et je me suis bien entendu avec chacun de mes patrons.
Chacun à sa manière,
et vous savez, et il y a d'ailleurs un texte des trois derniers présidents que j'ai servi qui illustre ce livre, et ils donnent chacun leur témoignage et leur idée de ce qu'est la gastronomie française, et ils accordent à la gastronomie une place importante, parce que derrière la gastronomie, on le redira jamais assez, mais il y a celles et ceux qui le font, pas les chefs, mais bien sûr toutes celles et ceux qui nous donnent le meilleur du terroir français, à savoir nos producteurs, nos éleveurs, nos pêcheurs, nos chasseurs et ainsi de suite.
Aujourd'hui, vous faites donc, on l'a dit, le bonheur d'Emmanuel et Brigitte Macron. Brigitte, très à cheval visiblement sur la règle des 5 fruits et légumes par jour. Stéphane, vous qui la connaissez bien, on va voir si Guillaume confirme. C'est quoi le fruit préféré de la première dame ?
La poire à lavement.
Bien ! Je conclurai donc ce portrait un peu trop exhaustif sur une note éthique, car Guillaume est un grand cuisinier, oui j'avais ce son-là, il servait à rien, mais également un cuisinier qui vit avec son temps. Chantre du Made in France et du local, vous êtes aussi un fervent défenseur du bio, sans toutefois tomber dans un jusqu'au boutisme parfois contre-productif. Vous dites, le bio c'est mon cheval de bataille, le fait de ne pas gaspiller c'est dans les gènes de tout bon cuisinier, après on ne récupère quand même pas les coquilles d'huîtres pour en faire de la semoule. De la semoule, non Guillaume. Mais du boulgour. Quand on a que le boulgour pour pallier au poivron et pas un seul oignon, rien que des topinambours. Alors, je sais pas vous, mais moi je commande des Deliveroo et nous aurons au dîner. Sushi riz cantonais.
Waouh, quelle prestation vocale, bravo.
Remarquable. Noter la qualité de l'organe même. Hein. Je ne sais pas faire une maillot, mais j'en vois la sauce.
Ah oui, ça.
Est-ce que était vrai dans mon
portrait ? Ce son est pas mal. Bravo. Tout avait l'air vrai.
C'était presque à 100% vrai, non ?
Sauf pour les coquilles d'huîtres, on les récupère aussi pour faire de la méthanisation, figurez-vous.
Expliquez-nous.
On récupère tous les déchets, en fait, à l'Élysée depuis longtemps. Je pense qu'on a été parmi la première table à Paris à le faire, avec le groupement national des indépendants de l'hôtellerie, le GNI, où on récupère en fait tous les déchets qui ne peuvent plus être consommés, les épluchures, les coquilles d'huîtres, et on en fait du méthane.
C'est pas mal, hein.
Et vous chauffez avec.
Non, on donne, et je sais, ça fait de l'engrais, des choses comme ça. Ouais. Merci pour ce portrait. Alors, c'est vrai, je voudrais quand même m'excuser auprès de Monsieur Tornadijo, qui était mon professeur principal et mon professeur de mathématiques. Ça fait 25 ans que je lui fais de la publicité. Et c'est vrai qu'à l'époque, parce que bon élève en mathématiques, et je pense qu'il l'avait fait pour mon bien, mais il avait convoqué mes parents leur disant vous vous rendez compte, vous envoyez votre fils faire de la cuisine alors qu'il peut faire un vrai métier. Parce qu'à l'époque, il faut le savoir, c'était bien avant, avez parlé de toutes ces émissions, mais il n'y avait aucune médiatisation presque des chefs à la télé. Surtout, c'était une voie de garage.
Je le disais pour la blague, mais c'est vrai que ça a complètement changé. Ça, on imagine mal un prof dire ça aujourd'hui à un élève qui a un don pour la cuisine, qui s'intéresse à ça. C'est pas du tout une voie de garage aujourd'hui, c'est devenu un métier.
C'est aussi parce qu'à l'époque, c'est comme si vous disiez à votre fille, non, je veux faire footballeur. sauf qu'il y en a très peu qui réussissent comme vous, vous avez réussi.
Non, c'est surtout qu'à l'époque, en cuisine, le public des jeunes qui étaient en cuisine ou dans la restauration en général, c'était t'avais tout raté, tu finiras cuisinier ou serveur.
Bien sûr, c'est ce qu'on disait.
Tu ratais mécanique, tu ratais tout ça. Oui. Alors qu'aujourd'hui, l'apprentissage, et je le défends, je suis porte-parole de l'association des apprentis de France, c'est une voie d'excellence, bien évidemment.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Il s'intéresse au Tipex, aux origines du Rubik's Cube ou encore du béton armé. C'est David Castello-Lopez. Normalement, David, vous vous intéressez aux origines d'un objet de notre quotidien. Aujourd'hui, aux origines d'une recette qui vous tient à cœur.
Oui, tout à fait, le pêcheur de natte. J'ai l'impression qu'on commence à savoir dans cette émission que je suis portugais.
C'est une
information qui est passée. Mais vous le savez sans doute, être portugais en France, c'est pas toujours très sympa. Parce que souvent, quand vous dites que vous êtes portugais, les gens, ils se lâchent complètement d'un point de vue du racisme. C'est-à-dire que c'est vraiment, ils vous disent « Ah, t'es portugais, tu veux de la morue avec du ciment ? T'es pauvre !» Tu vois ? C'est quand même dur, quoi. C'est pas facile. Et moi, je trouve ça un peu injuste quand même, parce que, je veux dire, le Portugal, c'est pas que la morue et le ciment. Bon, c'est surtout la morue et le ciment, mais quand même pas seulement. Je veux dire, c'est quand même aussi les grandes découvertes. C'est quand même un Portugais, le premier gars qui a fait le tour du monde. Même si au passage, on lui a quand même complètement écorché son nom en français. Je veux dire, Magellan. Mais quel manque de respect. Vous savez comment on dit Magellan en portugais ? Magalhães. M-A-G-A-L-H-A-E-S. Je veux dire, imaginez si on faisait ça avec le nom Gbagbo, par exemple, qui est super dur à prononcer. Et on disait, maintenant, Gbagbo, on va dire que c'est Bobby. Parce que, voilà, parce qu'on n'a pas envie de se faire chier, vous voyez. Bah, c'est un peu le même sentiment que j'ai avec Magellan. Il y a aussi une chose qu'on ne sait pas trop, c'est que les Portugais ont été 15 fois champions du monde de hockey sur gazon. Voilà.
Ça, c'est une drôle de statistique.
On ne sait pas.
Personne ne le sait.
C'est vrai que c'est un sport très médiatisé, le hockey sur gazon. Et puis surtout.
Surtout, ce que je comprends pas, parce que le hockey sur glace est très médiatisé.
Oui.
Comment c'est possible si t'es bon en hockey sur gazon? À un moment, tu te dis, tiens, je vais foutre de la glace. Comme ça, je vais être bon en hockey sur glace. C'est très différent.
Il faut savoir patiner.
Autant que patiner.
C'est pas con du tout ce que vous dites.
Mais oui,
je viens de prouver à la France en dire que non content d'être nul en cuisine, nul en chant, j'étais aussi nul en sport.
C'est comme ces gens. Tiens, quand tu t'es dit que tu courais, pourquoi tu nages pas? C'est vraiment pareil.
Bon, enchaîner.
Et surtout, après le hockey sur gazon, c'est surtout les Portugais qui ont inventé le pastel de nata. Alors, le pastel de nata, Olivier Pouls en a parlé un petit peu il y a quelques semaines. Qu'est-ce que c'est? Je sens que vous voulez que je vous explique ça avec l'accent portugais. Je le sens chez vous. Hein. Le pastel de nata, c'est un petit flan. Avec la pâte fouettée, que c'est très très bonne. Que c'est très très bonne. Ça fond dans le bouche, c'est un truc d'ouf. C'est vraiment super. Mais alors, d'où ça vient? D'où ça vient le pastel de nata? D'où ça vient? Eh bien, pour le savoir, je suis allé à Lisbonne, c'est-à-dire chez moi.
Vous étiez en vacances, quoi.
Exactement.
Cette chronique, tu t'es dit, une pierre de coups.
À Lisbonne, et plus exactement dans ce qui, une époque, était une banlieue de Lisbonne, même si maintenant ça fait partie de la ville, Belém. Voilà, qu'on prononce en portugais Belém. D'un côté, il y a les berges du Tage, dont sont partis les grands navigateurs portugais qui ont découvert le monde. Et de l'autre côté, il y a une petite échoppe qui s'appelle la Pastelaria de Belém. Et c'est dans cette pâtisserie qu'ont été vendus les premiers pastéis de nata en 1837. Juste à côté de la Pastelaria de Belém, il y a un monastère, le Mosteiro dos Jerónimos, monastère des Jérônimites.
Et vous m'avez l'air de très bien connaître Lisbonne,
je connais
Stéphane.
C'est la ville que je connais le mieux. Vous avez le monastère des Jérônimos,
la tour de
Belém, ensuite vous avez la Pastelaria dont il a parlé, ensuite le palais de Belém, là où il y a la présidence de la République.
Exactement.
Et où situe le Sheraton où vous séjournez?
Et à côté, il y a le musée des carrosses qui autrefois était dans le...
Tout à fait.
Allez, on va au musée des carrosses cet après-midi.
C'est l'un des plus beaux
du monde.
Avec celui de Vienne. Non, de musée, oui.
Oui, tout à fait, de musée des carrosses. Bon, on revient au Pastelnat. Juste à côté de la Pastelaria de Belém, donc il y a un monastère, le Mosteiro dos Jerónimos, et ce sont très probablement les... Je sens que je vous perds avec mon accent portugais. Ce sont probablement les moines de ce monastère qui ont inventé les pastéis de nata au XVIIIe siècle, mais pas pour les vendre, juste pour les manger eux-mêmes parce que c'était super bon. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 1820 au Portugal, il y a ce qu'on a appelé la révolution libérale, en portugais revolução liberal. Et une des conséquences de cette revolução liberal, c'est que les monastères au Portugal ont été fermés et les moines se sont retrouvés, si vous voulez, un peu dans la merde financièrement. Alors ils se sont dit... Pourquoi on les vendrait pas, nos Spechtechnat, pour faire des thunes? Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils les ont d'abord vendus tout seuls, et puis ils ont transmis leurs recettes à un monsieur qui a ouvert la Pechtleria de Blaye en 1837, il y a 184 ans. Et à noter que cette recette originelle des Pechtech vendue dans cette pâtisserie-là, c'est dans les grandes lignes la même que celle de tous les autres Pechtechnat qu'on trouve, mais en réalité, elle a un petit plus qui est secret, un petit peu comme chez Coca-Cola. Il y a trois personnes qui savent, c'est dans une sorte de coffre-fort, etc. Et c'est vrai que si vous allez à la Pechtleria de Blaye, vous verrez que c'est quand même des Pechtechnat qui sont particulièrement sympas, particulièrement bons. Alors, il s'est quand même passé un truc ces dernières années, pour finir. En 2012, le ministre de l'économie du Portugal, qui s'appelait Álvaro Miguel Rodrigues dos Santos Pereira, il a déclaré devant la presse, c'est fou quand même que personne ait pris le pastel de nata et l'ait exporté à l'international. C'est quand même dingue, ils ont fait les Américains avec le McDonald's. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça, nous? Il était énervé un petit peu. Et je ne sais pas si c'est une conséquence de cette déclaration ou pas, mais ces 10 dernières années, j'ai vu le Pechtelnat que je connaissais tout seul au Portugal. Personne connaissait quand j'étais petit. J'ai vu le Pechtelnat fleurir partout. Il y en a chez Picard, chez Monoprix, au Quick, dans plein de boulangeries. C'est un peu devenu la deuxième chose portugaise la plus connue au monde après Cristiano Ronaldo. Et vu le bien que je ne cesse d'entendre du Pechtelnat, je pense que ça venge un peu toutes ces années où à chaque fois que je disais que j'étais portugais, on me traitait de sale maçon qui pue.
Oh, la blessure d'enfance,
c'est horrible. Et vous mettez de la cannelle dessus?
Je ne mets pas de cannelle.
Parce qu'ils vous le servent à la pastellerie de Belin. Ils vous le servent ou avec un sachet ou de cannelle ou de sucre.
Tout à fait. Moi, bon, je l'aime
vous
nature.
Vous prenez nature. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, David Kachelops. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr. Ça m'a donné faim.
Et une petite tête de veau, ça vous dit?
Ah non, franchement.
Olivier Poul, ça arrive.
C'est la seule chose que je peux pas manger.
Bon. Ouais. Bah, Olivier l'a préparé. Il en a fait pour 8 en plus.
Bon, d'accord. On va la couper devant vous.
Ah.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est un fervent défenseur de la gastronomie française qui s'avance à présent vers le micro. Un journaliste engagé qui n'hésite pas à taper du poing sur la table quand il sent que notre société va à volo.
On continue à nous apprendre des théorèmes de maths dont on ne se servira jamais, alors qu'apprendre à cuisiner, on s'en servira tous les jours. Tu crois que je me nourris avec Pythagore ?
Olivier Pouls, vous êtes notre expert gastronomique. Visiblement, Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée, qui est notre invité spécial, cautionne tout à fait
évidemment,
vos propos.
La preuve, il était très bon en maths.
Et oui.
Et qu'est-ce qu'il en a fait? Rien.
Mais non.
Et il est aujourd'hui le chef de l'Élysée. Bravo.
C'est pratique pour les recettes quand même, quand on doit aller.
Pour les proportions. Oui.
Exactement.
Alors, Olivier, aujourd'hui, vous nous parlez, puisqu'on parle des chefs, on parle d'un plat qu'on a souvent associé à Jacques Chirac, un peu à tort, la tête de veau.
Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis Jacques Chirac, les chefs d'État français, en tout cas, ne donnent plus ce qu'ils considèrent être comme leur plat préféré. Mmh. Quand on leur demande, ils éludent. Alors, on sait que Macron, il aimait bien, comme on l'a dit tout à l'heure, manger de temps en temps un petit cordon bleu, mais ils ne le disent plus. Alors, pourquoi? Parce qu'un jour, Jacques Chirac a eu le malheur de dire que son plat préféré, c'était la tête de veau. Et pendant toute sa vie, on lui a fait des têtes de veau où qu'il aille. Et je parle sous le contrôle de Guillaume Gomez. Je crois qu'à l'Élysée, en réalité, il n'en a pas mangé plus de 3 ou 4 fois.
Oui, 2 fois exactement. C'est Madame Chirac qui, à l'époque, quand le président était maire de Paris, répond à un journaliste en disant « Mon mari aime la tête de veau », comme elle aurait pu dire « Il aime la choucroute ou le poulet rôti ». Et c'est vrai que partout où il allait, on lui servait de la tête de veau. Même quand il n'en commandait pas, on lui disait « Je sais que ça vous fait, plaisir, voilà, de la tête de veau à l'Élysée ».
Je vais plus en pouvoir.
On en a fait 2 fois et la deuxième fois, il m'a appelé, il m'a dit « Chef, c'était très bon, mais c'est plus la peine de m'en faire ».
Alors,
nous, on a compris.
Alors, la tête de veau, c'est vrai que c'est un plat historique et très traditionnel de la gastronomie française. On en mange depuis le temps des Romains. Il y a d'ailleurs, je crois, plusieurs confréries de tête de veau encore aujourd'hui. Vous en faites partie. Alors, laquelle, celle de Rambervilliers?
Alors, moi, je suis avec les gastronomes de Rungis, membre de la confrérie de la tête de veau. Et si vous allez à Rungis, c'est vrai qu'il y a des bons restaurants qui peuvent vous servir de la tête de veau.
Il y a celle du Périgord, de Saint-Laurent, de Chamousset aussi, parce que on se dispute un peu dans ces différentes régions l'origine de cette recette. Alors, il faut savoir que la tête de veau préparée dans les règles de l'art, c'est un truc qu'on ne voit pratiquement plus nulle part. D'abord parce que il faut se procurer la tête de veau entière.
Ah oui, c'est pas une blague, c'est-à-dire que la recette originale, c'est la tête de veau.
C'est la tête de veau entière que vous allez chercher chez votre...
Il faut surtout savoir la découper après.
Et voilà. Et donc, elle est cuite dans un bouillon pendant de très longues heures. On fait la sauce gribiche à côté, on sert la tête de veau entière à table et l'art de la découpe permet de donner à chacun des convives un petit morceau de tout. Donc, il faut un petit morceau des oreilles, il faut un petit morceau de langue, il faut un petit morceau de joue.
Les dents.
Tout est extrêmement codifié.
C'est qu'à un moment, on en vient à bouffer les dents du veau.
Non, on les mange pas.
On les suce, les os non plus.
Ah, non. Je dirais qu'ils aiment les os dans les carcasses et tout ça, là, avec la tête de veau, on fait pareil.
Dans les dents, il n'y a rien à manger.
La bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous pouvez acheter ce qu'on appelle de la tête de veau roulée chez votre boucher. Donc, elle a été prédécoupée. Et ensuite, on l'a roulée, on l'a ficelée. Et cette tête de veau roulée, ben, vous allez l'acheter, vous allez la mettre à cuire. Elle est pré-cuite en général, donc vous n'avez plus qu'une petite heure de cuisson pour la terminer dans un bouillon un peu corsé. Et puis, ben, avec ça, ben, vous allez faire une sauce gribiche. Alors, la sauce gribiche, c'est une vinaigrette qu'on a inventée au début du XXe siècle, dans laquelle on part, non pas avec des œufs qui sont frais et liquides, mais avec des œufs durs. On va monter cette vinaigrette avec de l'huile, on va rajouter des câpres, on va rajouter du cerfeuil, on va rajouter un peu d'estragon, de l'oignon haché si je ne m'abuse, des cornichons également. Et ensuite, ben, on va accompagner cette tête de veau coupée en rondelles. Donc dans chaque rondelle, vous aurez un petit morceau de chacune des parties de la tête de veau. Et on va l'accompagner de cette sauce gribiche.
Et on boit quoi avec ça, Olivier? On boit pas de la ceinture, j'imagine.
Pas de la Corona non plus.
Non,
alors là, surtout pas. Plutôt un vin blanc. Alors un vin blanc un peu sec, on va dire un peu canaille. Moi, j'imagine bien un vin blanc du sud de la Bourgogne, par exemple, un vin blanc de Givry, par exemple, pourquoi pas, ou quelque chose d'un peu plus tonique. On pourrait aller dans la Loire. Moi, un petit Sauvignon de Loire, ça m'irait bien.
On retrouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr, qui est magnifique, tout en couleurs, très bien illustré. Et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte, de 11h à 12h30 sur Europe1, une émission que vous connaissez, je crois, Guillaume Gomez. Vous y avez participé, je crois, à cette émission.
Je suis un auditeur de cette belle émission.
Stéphane Bern, quel sera aujourd'hui votre mot de la fin?
Dépêchez-vous, je suis charrette.
16h, 18h sur Europe1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
C'est la tradition dans cette émission. Stéphane Bern a toujours le mot de la fin. Stéphane, qui a adoré notre émission consacrée au chef des chefs en présence de Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée. D'ailleurs, Guillaume, Stéphane me confie hors antenne que votre délicieuse cuisine faisait le bonheur de sa bonne amie Brigitte Macron.
Elle a beaucoup grossi.
Non, Stéphane, non, on est à l'antenne, on est revenu à l'antenne, Stéphane. Ah, c'est le moment du mot de la fin, votre chronique, Stéphane.
On peut tout dire sauf ça. Hein. Bon, je suis charrette.
Je suis charrette, d'où nous vient cette belle expression encore usitée aujourd'hui?
Je suis débordé, je suis à la bourre. Tout ce champ lexical signifie que le temps nous manque, que l'on a accumulé un vrai retard sur un ouvrage.
Alors, je suis charrette, est-ce que ce collègue qu'on croise au bureau et qui utilise cette expression, sans le savoir, fait référence à la fameuse charrette qu'il ne faut pas mettre avant les bœufs?
Mais absolument. Ah, plus exactement, en rapport avec les étudiants des Beaux-Arts. Nous sommes au début du 19e siècle et ces derniers se font livrer, depuis la gare Montparnasse à Paris, de grands panneaux sur lesquels ils vont esquisser puis réaliser leurs œuvres, et particulièrement leurs œuvres d'architecture. Ce qu'ils ont imaginé doit être rendu, et ce, en un temps imparti. Dès lors, une course folle s'organise, les panneaux repartent des ateliers, direction la salle des examens, appelée salle Melpomène, en plein cœur de la capitale. La légende veut que les plus retardataires terminent leur dessin pendant le voyage, alors que les panneaux sont transportés dans les charrettes. Émile Zola, dans son roman L'œuvre, rend populaire cette expression. Il l'utilise, il fait dire en 1886 à l'un de ses étudiants « Oh, que je suis charrette !» La tradition de ces charrettes traversant Paris va s'achever en 1968, imaginez-vous. Date à laquelle les beaux-arts sont scindés en disciplines différentes, architecture, sculpture et peinture. C'en était alors fini également des courses de charrettes qu'organisaient les ateliers qui portaient le nom plein de poésie de « Course du Charrette Club ». Mais l'expression est restée, on dit toujours « je suis charrette » quand on a un travail à rendre et qu'on voit que l'heure tourne.
Soyons précis, soyons complets, David Castello-Lopez, comment dit-on « je suis charrette » en portugais?
Je ne saurais pas dire « je suis charrette ». Je suis très mauvais en expression idiomatique portugaise.
Mais vous savez le prononcer la portugaise.
Charrette.
C'est tout ce que j'attendais. Notre spécial Les Chefs des Chefs se termine, Stéphane.
Bah, on a quand même eu l'honneur et la chance de passer ces deux heures avec Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée, qui quand même d'abord fait énormément pour les œuvres caritatives.
Vous l'avez dit.
Je le dis parce que toutes les associations, y compris pour les enfants handicapés, malades, hospitalisés, le cancer, enfin c'est incroyable ce que ce garçon fait. Et c'est à juste titre qu'il a été fait partie de la dernière promotion de la Légion d'honneur. Bravo Guillaume.
Guillaume, est-ce que vous pouvez nous dire sur ces dernières semaines le plat dont vous êtes le plus fier? Parce qu'il y a quand même de la création tous les jours dans les cuisines de l'Élysée. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez dit là?
J'ai cette chance de pas m'installer dans une routine justement, et on fait pas deux fois la même chose. On va changer soit les garnitures, soit les provenances des produits. Donc c'est vrai qu'on.
Attendez, quand vous dites on fait jamais deux fois la même chose, quand le président a changé, vous pouvez quand même replacer quelques recettes.
Non, parce que vous savez, oui, on peut, mais si vous voulez, les recettes elles évoluent, elles changent. La recette que vous allez faire déjà en juin sera pas la même que celle de septembre. Et si on prend des produits comme, je sais pas, un poulet rôti, une recette qui est somme toute assez simple, un jour ça va être un poulet des Landes, un jour une poule noire d'Alsace, un jour une volaille de Milly-la-Forêt, ça va changer, la recette va forcément changer. Donc voilà, je vous invite
à celles qui cuisinent.
Et alors les frites de Guillaume, les frites.
Ah non, me dites pas ça. Voilà, c'est une fascination pour les frites.
Ah non, mais invitez-le, il veut
sous
faire des
frites. Sous quel prétexte je pourrais être invité à l'Élysée?
Je ne sais pas.
Bah, vous trouverez.
On trouvera.
Je veux bien faire un match frites avec lui.
Ah, c'est vrai qu'attention, Olivier Pousse,
les frites,
elles sont bonnes, vos frites.
Mais ça. Écoutez, c'est merci.
Demain, Stéphane, fini les chefs à domicile de luxe. On va devoir se faire la popote nous-mêmes.
Catastrophe.
Comme vous dites. Olivier, un dernier mot?
Blanquette.
Pas mieux. Alors à demain, les amis. Merci encore Guillaume Gomez d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci. À demain, Mathieu. À demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.